Bienvenue à l'émission On en jase. Émission 100% parler d'actualité du midi. C'est pendant tout l'été. Cette semaine avec Jeff Fortin, Pascal CV. La semaine prochaine, ça va être un On en jase mixé avec le Point Max. 11h à 14h, Pascal CV et Mathias Turcotte qui vont vous accompagner pour les trois prochaines semaines. Et je serai de retour le 3 août avec Mathias Turcotte à l'antenne. Pascal CV, comment vas-tu?
Ça va super bien, toi aussi.
Ça va bien. Passe un beau week-end.
Magnifique week-end. Fais-tu assez beau?
La piscine,
le petit cocktail. Je suis allée courir en masse. Je sais qu'il y en a qui me jugent, mais moi, j'aime ça quand il fait chaud.
Ben
on dirait que les muscles
bien.
Sont réchauffés.
Tu fais bien.
On est bien.
Let's go.
Mais on se donne pas autant que s'il n'y avait pas canicule.
Non. Hey, Val m'a fait découvrir un nouveau resto. On était déjeuner au resto sur la plage à l'île d'Orléans. Non, mais beau.
La vue, ça, faut pas trop dire les spots. Comme, mettons, le casse-croûte du Sud, là.
Mm-hmm.
Meilleure pizza pour poulet barbecue que j'ai mangé de ma vie. À Lille.
Ah non,
à Lille, c'est-tu magnifique,
ben, c'est ça.
Les commerces.
J'ai reconnecté avec l'eau, on dirait, cette année. On est allé deux fois à l'île aux Coudes, un chalet dans le coin de Charlevoix, là, le resto sur la plage. On est allé faire une randonnée où on marchait sur le bord d'une rivière. Moi, on dit que je me sens bien sur le bord de l'eau.
Puis on en parlait, Québec, à quel point c'est magnifique, parce que tout est un peu à 20 minutes.
Ben, exactement.
Peu importe où tu trouves où, que ce soit la forêt,
ben oui.
Le fleuve, une rivière, ou encore ben, la grande ville avec un resto puis un festival.
Ben oui.
Parce que ça commence cette semaine
aussi,
le festival de Québec.
Ma blonde qui me dit « Hey, prépare-toi, il faut que tu sois prêt à 10 heures, je t'amène en quelque part, on a une demi-heure de route à faire, une demi-heure plus tard, on est sur le bord du fleuve à l'île d'Orléans. »
J'adore, elle avait connu ça comment?
Je t'ai déjà allé une fois, me semble, de mémoire.
Parce qu'ils commencent là, à se refaire connaître. Ils sont hyper connus de l'île d'Orléans.
Ben oui.
Mais ils ont changé un peu leur menu et leur façon de faire dans les dernières années.
Ouais.
Puis entre autres, il y avait le chef Louis, François Marcotte, qui était passé les aider. Il y a une série, si vous avez jamais vu ça, sur tout.tv. C'est vraiment intéressant. Puis ça parle de reprenariat, mais dans le domaine de la restauration.
Ah, c'est cool.
Puis des fois, les enjeux qui sont derrière.
Non, non, on a un service impeccable. C'était vraiment, vraiment bien. Vous, votre fin de semaine, comment ça s'est passé? Hey, moi, j'étais full fier hier parce que mon gazon est impeccable.
T'as assez travaillé fort.
Un gazon que j'ai travaillé fort dessus. Là.
Hey,
j'ai pas réussi à faire tout mon terrain. J'ai fait en avant puis une portion en arrière qui était sur de la terre. Puis là, hier, j'ai passé à la tondeuse, mais je ne l'ai pas tondu trop court parce qu'il n'annonce pas beaucoup de pluie cette semaine.
Ben
là, c'est une superbe météo, là, les amis. Là, je peux vous la faire immédiatement. C'est 28 degrés généralement ensoleillé aujourd'hui. 29 degrés généralement ensoleillé pour mardi. 29 degrés ensoleillé pour mercredi. On parle de nuages à 25 degrés pour jeudi. Puis après ça, écoute, c'est encore du soleil, 26, 28. C'est-tu le fun, ça, quand il fait beau de même, surtout avec le festival d'été qui approche?
Mais c'était le temps.
Ah oui, mais là, mon gazon, là, je marchais sur mon gazon.
Non, tu fais tellement bonheur.
Téval a même dit, hey, j'enlève mes sandales, on va marcher sur notre gazon, frais ton
dieu. Petit bonheur, hein, Jeff?
Ah, l'enfer!
T'as-tu hâte de sortir la tondeuse?
Ouais, assis dans ma petite chaise, puis là, avec une petite bière, puis je regardais mon gazon.
Tu sais que tu peux pas le tondre encore parce que tu veux pas qu'il sèche.
C'est ça.
Mais t'as-tu hâte au moment où tu
la
sors, cette tondeuse-là, mon bonhomme?
Oui, surtout qu'on a acheté une nouvelle en fin de semaine. On a dit « let's go ».
T'as dû te sentir comme moi quand je me sens bonne femme parce que je tripe sur mon Vitamix, mettons.
Oui. Mais non, mais c'est tellement...
On sait qu'on est rendu vieux.
Oui. Mais en effet, là, assis dans ma petite chaise à 10 rondac où on se fait notre feu normalement, on se fait un feu samedi soir. Puis là, regardez Val, dis. Tu sais comment il est beau, le gazon.
Un beau gazon. Un beau
terrain. Oui, là, je suis fier.
Hey, 88-971-102, qu'est-ce qui vous confirme que vous êtes rendu vieux ou que vous avez une mentalité un petit
ben,
peu,
c'est
un peu plus vieille? Là. Parce que là, toi, tu parles de ton gazon comme si c'était, je veux dire, la Sagrada Familia.
C'était la septième merveille du monde en fin de semaine, mon gazon. Il n'y a pas de doute là-dessus. Stéphane, qui vient de Charlevoix, il dit « C'est vrai qu'on est bien à Charlevoix, mais... hein, » donc, vraiment, vraiment, vraiment... Ah, je viens de rire fort sur mon quai, ton gazon impeccable. Alors, mais écoute, c'est l'enfer. J'adore tellement mon gazon. Je pars un matin, puis là, je regarde... Là, ah ouais, j'avais une patch là, en avant.
Non.
Sur mon terrain. Puis là, c'est du beau gazon.
Il y a Alex qui dit « Mon oncle, Jeff, mais je te comprends tellement. » J'aime ça, moi, vos affaires de mon oncle puis vos affaires... J'appelle ça des mon oncle bonne femme, comprenez?
Ben oui.
Je ris, puis je ris même de moi, là. Mais c'est juste qu'il y a des moments où on fait « Oh, Ah ouais, ce commentaire-là, officiellement, là, me fait
traverser dans l'autre âge. Non, mais je le dis, je suis rendu un vieux bonhomme. Je trippe sur mon gazon, je vois un canard s'envoler, j'aime ça. Je reconnecte à l'eau. Limp Bizkit vient jeudi, je n'irai pas parce que je travaille le lendemain. Je suis vraiment rendu un vieux bonhomme. T'sais, Max me regarde le matin, il dit, on va croire, tu ne seras pas Limp Bizkit, t'as un groupe de ton temps que t'es écouté. Ouais, je travaille le lendemain. Là, il dit... Ben là, Jeff, ça va? Je suis juste rendu un vieux bonhomme. Mais au Lumineers vendredi parce que je travaille
parce
pas
que
le lendemain.
C'est ça, c'est congé le lendemain.
Mais non, je suis un vieux bonhomme.
François qui dit que lui, il sent bonhomme parce qu'il chiale sur la vitesse dans sa rue. Quelqu'un d'autre qui dit, moi, je me suis acheté une balançoire sur roulette avec un toit, puis je me balance. Puis la personne a écrit, me balancing l'après-midi, puis j'ai juste 38 ans.
Oh, j'adore.
Quelqu'un d'autre qui dit, j'ai 36, j'ai acheté la semaine passée une tondeuse à batterie. J'étais autant heureux qu'un enfant qui déballe une voiture téléguidée. J'ai réalisé que j'étais rentré.
Je me reconnais tellement là-dedans. Elle va être livrée jeudi à tondeuse à batterie.
T'as puis, batterie toi aussi?
Oui, puis là, on a pris le kit avec le Weed Eater aussi. Puis j'ai dit, hey.
Yes, là, je t'ai.
Je peux pas savoir comment, mais c'est parce que je commence mes vacances. Fait que samedi prochain, sûrement qu'une de mes premières actions de mes vacances après les Lumineers, ça va être d'essayer ma nouvelle tondeuse. Hey, c'est-tu pas excitant, ça?
Récemment, j'ai commencé à. Puis là, j'espère que ça va repartir. Tu sais, quand tu t'assois, tu fais.
Ben oui.
À faire ce bruit-là, là.
Oui.
Là, je me suis vraiment chicanée, là. Vraiment, vraiment. Quelqu'un qui dit, quand je me lève, ça confirme que je suis rendue.
Ouais. Je me parle tout seul aussi. Bon! Bon, allez prendre ma douche.
Tu dis toutes tes affaires.
Ah oui.
Non.
Des fois, je m'en rends compte. Val, elle me dit régulièrement, j'ai pas besoin de savoir que tu vas aux toilettes parce que c'est bon, allez aux toilettes, hein? Là, comme.
Ma mère a fait ça
tout de suite.
Genre, bon, faut aller dans la cuisine. Ouais. Ben, il me reste 20 minutes. Ouais, faudrait partir. Et hey, puis j'étais comme, ben voyons. Pourquoi? À qui tu parles? À toi-même?
Oui, exactement.
Tu parles à toi.
Oui, je parle à moi ou je parle au lapin. Ah, mon petit bleu? Papa va laver le plancher, hein?
Non, tu le regardes en...
Là, attention, mon petit bleu, il va passer à balayeuse. Tu vas voir pas, mon poltron.
Non,
je te le dis.
Une chance, c'est des petites chemises de jeunesse funky parce qu'il faudrait faire quelque chose.
Ah, c'est pour ça que je dis que je suis rendu un vrai, de vrai vieux bonhomme. Je me parle tout seul, je trippe sur mon gazon, je reconnecte à l'eau. Il
n'y
a
heureux?
Rien. Je suis heureux, tu dis?
Ben,
heureux,
c'est ça.
Heureux.
C'est ça
heureux.
L'important.
C'est l'enfer, comment je suis heureux.
C'est ça l'important.
Ouais. D'ailleurs, hier, j'ai fait un post. Beaucoup de gens qui ont commenté, qui ont vu. Ça fait 7 ans hier que j'ai appelé le Centre de prévention du suicide. Puis c'est pour ça, là, c'est une petite introduction pour dire que je suis rendu un vieux bonhomme heureux. C'est qu'on peut avoir des moments plus difficiles dans la vie. J'en ai vécu. J'ai fait une dépression majeure. J'ai passé très près de passer à l'acte. Mais justement, je pensais à ça hier. Je regardais mon gazon et je me disais, Colin, je m'émerveille devant mon gazon. J'ai dit le chemin qui a été fait en 7 ans.
De façon naturelle.
Oui, vraiment, 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 le chemin qui a été fait en 7 ans. Puis je voulais en parler parce que c'est pas évident. Moi, j'ai vécu une dépression majeure en été. Puis c'est vraiment pas évident. Puis je t'explique pourquoi. Parce que tout le monde est heureux en été, il fait beau.
Tu sais,
on a commencé, là. Hey, météo, est-ce qu'il fait-tu beau festival d'été? T'as ça. Puis moi, ça va être directement dans ce moment-là. Puis je me suis allé m'être questionné, mais re-questionné. Hey, qu'est-ce qui se passe? D'habitude, je serais avec une bière à la main à un show du festival d'été avec mes chums de gars. Puis là, j'ai juste le goût d'être en boule dans mon salon. T'sais.
Tu te disais, si ça me rend pas heureux, qu'est-ce qui va me rendre
heureux?
Ben,
exactement. Mm. Puis là, tu te poses plein de questions. Tu te dis, je vais être capable de revenir, tu sais, l'homme que j'étais? Je vais être capable de reprendre le dessus?
De
ah, vraiment, 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 vraiment. J'ai vraiment eu peur de rester marqué à vie, tu sais, de plus être capable de profiter des petites choses comme je viens de nommer, là. Puis c'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est possible. C'est possible de le faire, c'est possible de le réaliser. Ça demande des efforts, ça m'a demandé une très grosse thérapie, très grosse introspection.
C'est difficile?
Ouais, ça shake, ça, c'est clair.
Ça a-tu été plus difficile de rien faire que de faire cette thérapie-là pour s'en sortir? Comprends-tu ma question?
Ouais, ça a été plus facile de faire la thérapie. Parce que
ça,
rien faire, tu restes.
Et voilà.
Tu restes jamais dans.
C'est ce que je pensais.
Dans tes crottes, là, je vais le dire comme ça.
Ça perdure et tes accumules.
Ben oui, exactement. Tandis que faire la thérapie, ben tu chemines. C'est sûr que il y a des fois, tu reviens à la maison, là, tu fais comme, hey, baba, il me
suis fait... ça brasse, c'est ça.
Ah oui, hein, je pensais, moi, telle affaire, comment ça, je pensais ça, finalement. C'est pas ça, pantoute, la vraie image, tu sais. Je m'étais rendu compte dans ma thérapie, ils appelaient ça des cassettes. Je me formais beaucoup de cassettes dans ma tête. Donc, tu te formes des cassettes, tu vois déjà la réalité d'une certaine façon, mais qu'il ne l'est pas. Mais dans ta tête, tu te convaincs que c'est ça que tu vois.
Puis tu te répètes toujours ça.
Puis tu te répètes toujours ça. Fait qu'il appelle ça des cassettes. C'est comme si la cassette se répétait tout le temps. T'sais.
Puis toi, tu l'as fait, puis tu l'as construite, puis c'était comme ça. Puis...
Exactement. Fait que là, même si ça arrive différemment, tu trouves un moyen que ça va être ce que tu pensais. Qui
est... Convainc. C'est comme l'horoscope des fois. Hein,
exactement.
Quelqu'un qui dit quelque chose de super beau. Ah, vas-y. Quel bel anniversaire, Jeff. C'est le plus beau choix de ta vie.
Ah, c'est clair.
C'est tellement bien dit.
C'est clair, clair, clair. C'est vrai que c'est le meilleur choix de ma vie. Je remercie encore mon frère Dave, mon chum Pascal, qui était là ce soir fatidique-là, puis qui m'ont bien guidé. Puis à un moment donné, c'est mon chum Pascal qui a dit « Ouais, tu t'en penserais qu'on appelle au centre de prévention du suicide? » Puis là, j'ai fait « Ouais, j'ai fait confiance. » J'ai dit « Ouais, t'as raison. J'appelle. »
Y a-tu dans ton processus un moment où t'as pas fait confiance autour de toi à ceux qui disent « Hey Jeff, t'as changé un peu, hey Jeff », le temps que ça devienne vraiment là, tape à l'œil pour toi?
Ouais, ben j'en ai pas beaucoup parlé de mes idées noires, fait que c'est tough que les gens, je le cachais beaucoup parce que quand j'arrivais en public, comme maintenant avec mes amis, toujours l'exemple, vendredi quand je suis parti du studio, on allait prendre une bière, la gang de chums ensemble.
Ouais, c'est votre début de la saison du vendredi. Ouais.
Bon, finalement, ça a été plusieurs bières, si bien que j'ai appelé ma conjointe pour dire « Eh non, on me cherche, on va laisser le char là. »
Bon réflexe.
Exactement. Puis là, j'étais chaud d'ail, faut le dire. Mais... c'est ça, quand j'arrivais dans ces moments-là, c'est que c'était des moments où, ah là, c'était drôle, tu sais, on lançait toujours une coupe de crack, le kit. Fait que c'est ça, j'en jasais pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'en jasais à mon ami Pascal, mon frère, mon ami Tommy. C'était pas mal les trois seuls qui étaient au courant, mais j'étais pas allé aussi loin dans ce que je leur disais que où est-ce que j'étais rendu mentalement. Fait que c'est pour ça, tes messages aux hommes, ça peut être aux femmes aussi, là, mes messages aux hommes, parce que je sais comment on est, les maudits gars, là, on n'aime pas ça parler. Là. Ben, parlez. Parlez-en. Il y a des ressources d'aide, il y a le Centre de prévention du suicide, il y a un 866 appel, donc c'est 53-53-53 aussi par texto, suicide.ca. Parlez-en. Ayez pas peur, ayez le courage de faire le pas par en avant. La vie est belle, elle mérite d'être vécue. À un moment donné, vous allez être comme moi, vous allez admirer votre gazon, même si vous pensiez jamais en arriver là. Mais prenez les ressources d'aide qui existent parce que honnêtement, c'est ce que j'écrivais dans mon post hier. Je me disais, puis à chaque coup que je fais ce post-là, anniversaire, je me dis toujours, Caroline Debine, hein, j'écris souvent la même affaire, mais c'est vrai. Hey, j'aurais pas vu mes gars grandir.
Ouais.
T'imagines-tu?
Ouais. Deux beaux. Détruit aussi.
Mais hein, deux beaux. Un qui est rendu adulte à 18 ans, l'autre à 16 ans. Des gars autonomes, des gars dynamiques.
T'aurais pas connu ta blonde?
J'aurais pas connu ma blonde. C'est exactement ce que j'ai écrit.
T'aurais pas ton beau gazon.
Ben non, j'aurais pas mon beau gazon.
Tu serais pas à la radio.
Je serais pas à la radio. Fait que vois-tu toutes des choses qui, en 7 ans, se sont construites puis qui font en sorte qu'aujourd'hui, je mords dans la vie. Fait que c'est toujours particulier comme journée. J'avais Vertival dans la semaine. J'avais dit, hey, tu sais-tu quoi, dimanche, ça va être une journée particulière. C'est l'anniversaire, tout le kit, puis... je vais prendre une petite journée relax à la maison, on va faire des affaires. Puis finalement, ça a été une super journée avec ma blonde. Ça a été vraiment, vraiment plaisant. On a vu ça avec un petit film que t'aimes.
Parfait, ça, moi, si tu m'écoutes. Ah, oh, c'est la fille, c'est sur Netflix, là?
Oui, c'est la fille qui appelle sa soeur. Exactement.
Les messages sur la boîte vocale de sa soeur décédée.
Hey, écoute, Val a pleuré 5 fois, je pense.
Bon, je vais l'écouter.
Oh, va falloir t'écouter ça. Non, c'est vraiment bon, honnêtement.
Mais félicitations, Jeff.
Merci beaucoup.
C'est important que tu le soulignes, puis je te souhaite de le souligner à chaque année. Tu sais, des gens qui disent la thérapie, ça donne la confiance en sa capacité exclusive d'amener des étoiles. Fait que tu te prends en main puis d'allumer eux-mêmes le changement pour les gens qui consultent. Quelqu'un qui dit « J'ai été dans le même bateau que toi, Jeff. » Félicitations, parce que maudit que ça fait du bien d'entendre publiquement quelqu'un en parler sans chuchoter puis sans se cacher. T'as Stéphane aussi qui dit « Moi, je serai toujours fière d'une personne qui se prend en main. Jamais je jugerai. » Il y a vraiment des beaux messages pour toi, Jeff. Puis en plus, quelqu'un qui souligne que t'aurais pas ta tondeuse
j'aurais
à batterie.
J'aurais pas ma tondeuse à batterie. T'imagines qu'est-ce qui me manquerait dans la vie? Non, puis honnêtement, il y a souvent des gens qui disent « Hey, moi, je suis fort parce que je mets jamais le genou au sol. » Ben moi, je pense que t'es très fort quand t'acceptes de mettre les genoux au sol puis de te relever après ça. C'est pour ça que j'en parle. Moi, j'en parle parce que toujours à chaque fois que j'en parle, je le sais que j'ai allumé une petite lumière à quelqu'un qui file pas puis qui dit
hey, je pense que oui.
Attends une minute, Kim. Jeff Fortin vient de raconter ça à la radio. Jeff Fortin vient de faire un post. Hey, annonce ça. Je vais regarder d'autres alternatives qui ont resté pris dans mon malheur. Fait que ça, j'en parle parce que Val me demandait cette semaine, puis c'était une super bonne question. Elle me disait pourquoi tu t'en parles autant que ça? T'sais? pourquoi tu parles
de... l'as-tu mal pris que t'en...
Pas en tout, j'ai fait, tu parles d'une bonne question. J'ai dit, je me suis comme jamais posé la question, mais j'ai la réponse déjà. Elle dit quoi? Juste pour sauver le monde. Pour ça, je le fais.
T'aurais eu besoin de ça, toi?
Ouais, j'aurais eu besoin de ce genre de témoignage-là. Fait que j'ai dit, pour sauver le monde. J'ai dit, c'est pour ça que je le fais. Je dis pas nécessairement. Ben, oui, c'est pour moi.
C'est
pour
ça que ça ne plaît pas, passe.
Ben, c'est ça. Oui, c'est pour moi parce que ça me fait toujours du bien de regarder, de prendre la photo de v'là 7 ans, j'étais où, puis là. On s'entend, il y a un monde de différence.
Je suis convaincu de ça, puis en plus, ça te porte encore pour les prochaines années.
Exactement. Mais également pour permettre aux gens de se prendre en main. Donc, c'est ça. Ça a fait 7 ans hier que j'ai appelé le Centre de prévention du suicide, puis ben. Je suis pas prêt de le rappeler présentement.
Sais-tu quoi? C'est parce que tu t'es pris en main, tu t'es laissé aider, puis tu l'as mis ton genou en terre. Je suis très fier de toi, Jeff.
Hey, merci.
Ça se vaut de te féliciter puis saluer cette
merci, puis merci à tous les auditeurs et auditrices qui écrivent des bons messages. Je les lis tous et vous êtes vraiment, 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 vraiment très, 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 très gentils. Ça me touche énormément. On revient sur la Terre. Circulation, Pascal CV.
Oui, il y a un incident sur l'autoroute 40 Est à la hauteur de l'avenue Blaise-Pascal. La voie centrale, la voie droite sont bloquées. Ça fait un petit bout qu'on est dedans, je vous dirais peut-être une demi-heure. C'est ça, laisser de côté cette nouvelle-là du motocycliste qui s'est planté là, en roulant sur une roue, en faisant du wheelie, là, on va le dire dans le même, sur
Laurentienne
en fin de semaine. 5 constats d'infraction par les policiers. Là, on parle souvent de conduite dangereuse, plaque non fixée, système d'échappement qui n'était pas conforme aussi, absence d'assurance adéquate. C'est un jeune homme de 23 ans qui a vu son permis être suspendu aussi. Là, donc, le conducteur s'en sort avec des blessures qui ne met pas sa vie en danger. Mais combien de fois on voit des gestes complètement irrationnels sur l'autoroute puis qu'on se dit « J'espère que ça ne va pas finir en accident. »
Bien, c'est
pour
ça. Non, il y a des auditeurs qui ont écrit ce matin pour dire juste avant, ils faisaient la même chose sur Robert Bourassa. Donc, on voit que c'est un individu, je vais croire les auditeurs, évidemment, là, c'est un individu qui avait des mauvais comportements. Là, son permis est révoqué.
Ouais.
Bon, moi, si c'était juste de moi, il serait révoqué à vie. Là. Je sais que c'est pas comme ça que ça marche. Mais écoute,
Mais l'accident, c'est sûr, ça va y avoir appris quelque chose. Oh! Je peux pas croire. Là.
Hey, t'es chanceux. C'est un auditeur qui m'écrit ça hier soir quand il m'a envoyé la vidéo. Il dit « Hey, chanceux qu'il n'y a pas une voiture qui suivait, d'un pour lui. Puis de là, maintenant, une voiture qui suit, qui se tasse vite, qui rentre dans une autre voiture. Il y a des enfants là-dedans, tout le kit. »
Ça
répète
une voiture qui rentre dedans. Puis qui, tu sais, si tu tues quelqu'un
par
la stupidité routière d'un autre, là,
t'es marqué à vie.
Mais oui.
C'est clair.
T'es traumatisé?
C'est clair. Non, fait que j'ai pas de misère à utiliser le terme cabochon pour cet individu-là, mais pas du tout. Sinon, on m'enchaîne, Pascal CV.
Aujourd'hui, hein, on a appris que la grève générale illimitée des ingénieurs du gouvernement du Québec était officiellement entrée en vigueur. C'est des moyens de pression qui étaient déjà en cours depuis quelques semaines quand même. C'est une grève qui était notamment en place les jeudis, les soirs, les nuits, les fins de semaine, mais là, c'est général illimité. Donc, convention collective des ingénieurs du gouvernement du Québec qui est échu depuis mars 2023. Et selon le syndicat, les négociations sont au point mort depuis plusieurs mois déjà. Le troisième lien revient dans l'actualité, c'est l'appel d'intérêt international pour solliciter des investissements du privé dans ce grand projet-là, Québec-Lévis, qui n'aura pas un grand impact sur son montage financier selon des experts. Et là, c'est cité par Radio-Canada, mais le spécialiste en planification des transports puis le président de Gris Orange Consultant, Pierre Barriot, a lancé que c'était certain que le gouvernement du Québec devra financer la majorité de l'infrastructure. Donc, pour lui, le tarif qu'il faut charger là, en vue d'obtenir une rentabilité complète, ça serait absolument prohibitif. Là, Bernard Drinville est sorti aujourd'hui en disant qu'il est un peu tanné des experts. C'est pour lui, il a mis « expert » entre parenthèses. Là. Le ministre de l'Économie, je vous rappelle, est aussi député de Lévis, qui a prôné énormément ce projet-là de troisième lien. Il dit que les experts là, sont jamais pour le projet, puis il est tanné, donc il réagissait à ces propos-là et aussi à la possibilité qu'un éventuel péage puisse financer là, une portion importante de la construction d'un troisième lien à l'est de Québec et de Lévis. Le pire a été évité du côté de Repentigny hier. Un train de marchandises qui a déraillé dans un quartier résidentiel. Évacuation d'environ 200 résidents. C'est arrivé autour de 16h30 pour des raisons qui sont encore obscures. L'enquête est en cours. Le Canadien national indique que 45 wagons ont déraillé. Aucune fuite, aucun incendie, aucun blessé qui a été signalé. On précise au passage par la compagnie qu'il y a 3 wagons qui ont précédemment transporté du diesel qui était impliqué dans le déraillement, mais qui n'était pas chargé au moment de l'événement. Donc, c'est comme les bonnes nouvelles dans la mauvaise. C'est sûr qu'on est dans un mois aussi de commémoration. On se rappellera toujours Lac Mégantic et le déraillement catastrophique, la tragédie. Là, quand on entend parler de ce genre d'affaires-là, on trouve tout le temps ça un petit peu difficile, là, que
vraiment,
ça arrive. Là.
Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, après la pause, on va parler avec Robert Bellefleur. Il est créateur de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire. Donc, on va revenir. Ça fait 13 ans aujourd'hui, malheureusement, la tragédie au lac Mégantic. Puis également, bien, il y a eu ce déraillement-là là, à Repentigny. Hey, 13 ans, puis il n'y a rien qui est fait encore, lac Mégantic.
Non, c'est complexe. Puis tu le sais, moi, j'ai travaillé là 8 mois après la tragédie. Puis... je suis retournée à peu près chaque année pendant les 5 années qui ont suivi. Puis c'est encore une communauté, justement, par le manque d'avancement ou les chicanes ou la difficulté d'arrimer, en fait, l'émotionnel, le politique, l'économique, puis la structure, tu sais, de transport. C'est un casse-tête qui crée énormément de dommages. Il y en a beaucoup qui ont quitté aussi la Mégantic à travers les années.
Non, on va parler avec M. Bellefleur. Au sport, ben vous le savez, le Canada a perdu malheureusement 3-0 contre le Maroc, mais une excellente première demi où les Canadiens avaient même l'avantage sur les Marocains, 7e puissance au monde. Sinon, dans la FIFA, les résultats de la fin de semaine, la France a battu le Paraguay, la Norvège a éliminé le Brésil, première fois que le Brésil est éliminé aussitôt en Coupe du monde. Et hier soir, victoire dramatique de l'Angleterre sur le Mexique. On va parler avec Alex Laramé en fin d'émission. Là, il y a cette controverse ça sur le joueur américain qui avait un carton rouge suspendu. Petit appel de Donald Trump à FIFA. Pierre, ouais, non, il va jouer contre la Belgique. Balayage des capitales.
C'est épouvantable.
Oh, ça n'a pas de bon sens. Balayage des capitales ce week-end face aux Grizzlies de Gateway. Ça les porte à 34 victoires et 15 revers. Ils sont de retour à Québec demain soir contre le Rocks de Brockton pour une série de 3 matchs. Et on va également parler avec Alex Laramé de cette offre style 5 ans, 18 millions par année qui a été offert par les Flyers de Philadelphie à Leo Carlson, un jeune joueur des Ducks d'Anaheim. C'est la plus grosse offre hostile de l'histoire de la Ligue nationale. Donc, en fin d'émission, on parle avec Alex Laramé. Courte pause à Boulevard 101 et on revient avec Robert Bellefleur. On va revenir sur cette tragédie au lac Mégantic. Également, le déraillement à Repentigny d'hier. On en jase tout l'été. Et oui, 100% parler tout l'été, 100% parler le midi avec l'émission On en jase. Jeff Fortin avec Pascal CV pour vous accompagner. Ce sera le retour estival de 14h à 18h. Trio de filles cette semaine. Audrey Pinchot, Antonine Iaccarini et également Véronique Bergeron. Le matin, c'est moi. Yannick Marceau et Max Larouche, mais ce sera Pascal CV avec nous vendredi matin, tout simplement. Pour nous suivre, la meilleure façon de nous écouter sur la route, BLVD 101, notre application disponible gratuitement sur App Store et Google Play Store. Vous pouvez également nous écouter via le BLVD.fm, c'est notre web radio. Les meilleurs moments de notre émission s'y retrouvent par la suite. Pascal, il y a des tragédies qui marquent. Et la tragédie de Lac Mégantic, c'est très frappant, c'est très marquant parce qu'une petite communauté qui a été complètement anéantie par cette tragédie ferroviaire. Puis quand il y a des tragédies comme ça, on se souvient toujours où on était. Et moi, je me souviens, j'étais en tournoi de Décaca à Drummondville. On se lève le matin, je vois quand même assez de bonne heure, vers 9h, 9h30. Puis dans ce temps-là, c'était les journaux papier. Fait que je m'en vais au petit dépanneur de l'hôtel pour prendre mon journal papier pour lire mon actualité. La une, la grosse photo, la boule de feu. Et là, il y avait des équipes dans le tournoi qui venaient du lac Mégantic. Donc là, appel, y a-tu quelqu'un qui est touché dans ma famille? Tout ça, c'était vraiment un moment très terrifiant qu'on a vécu, éloigné à Drummondville, mais on sentait toute la tristesse, toute l'angoisse là, que la communauté entière avait. Là. Donc, vraiment, là, c'était très difficile. Toi, t'étais où durant cette tragédie-là, t'en souviens-tu?
Oui, moi, j'étais dans le moment de ma vie où j'étais aux études, là, en arrêt technologie des médias, mais je revenais à Québec l'été. Puis tu sais que mon père est en incendie aussi, fait qu'on appelait les équipes pour venir en renfort d'un peu partout. Fait que mon père, il m'écrit, puis je travaillais dans un resto ce matin-là, puis il me dit « Hey, veux-tu qu'on monte? » À Lac Mégantic, moi, lui, il voulait monter, puis il m'a demandé si je voulais monter pour prêter main forte ou quoi que ce soit. Fait qu'on était dans cette... J'ai pas pu annuler mes shifts à l'emploi. Mais 8 mois plus tard, la vie a fait que je me suis ramassée à être sur le terrain quand il y avait absolument rien de fait encore. Juste un escalier en fer, je me rappellerai toujours de cette vision-là, en fer forgé, debout, seul, dans un cratère de poussière puis de plus rien qui existe en termes de centre-ville. Puis j'ai travaillé là pendant 3 mois. J'avais plein de mandats différents, mais j'animais l'émission du matin.
Ouais. Très, très, très difficile comme tragédie. Là, 13 ans plus tard, bon, OK, le Canadien national va avoir réglé ça, nos différents paliers de gouvernement. Puis le centre-ville de Lac-Mégantic va être sécurisé. Pour en parler avec nous, on a Robert Bellefleur, qui est créateur de la Coalition des citoyens et organisme engagé pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic. Monsieur Bellefleur, merci pour votre disponibilité ce midi.
Et bonjour, Monsieur Fortin et Mme Sévé.
Monsieur Bellefleur, je le disais d'entrée de jeu, normalement, après 13 ans, la situation devrait être réglée, mais ce que je comprends, c'est que rien n'a été fait au Lac-Mégantic et même, il y a des trains encore plus imposants qui passent directement au centre-ville.
Effectivement, c'est malheureux de le dire. Ça fait 13 ans qu'on attend la solution qui serait le passage d'une voie de contournement à l'extérieur de la municipalité de Lac-Mégantic. Malheureusement, le Transport Canada, le Canadien Pacifique, l'Office des Transports font études sur études et on n'en finit plus. Les trains sont actuellement qui passent à Lac-Mégantic 2 à 3 fois par jour, sont 2 fois plus longs. 2 fois plus lourd et transporte 2 fois plus de matière dangereuse, plus dangereuse que le pétrole de schiste parce que c'est du gaz propane, de l'acide sulfurique, l'essence automobile, du chlorure de sodium. Alors, écoutez, si ça pétait, ça serait. Il y aurait un rayon de dévastation beaucoup plus grand.
Avez-vous l'impression qu'on essaie de gagner du temps? Comment ça, est-ce que c'est si long?
Ben, c'est la léthargie de nos gouvernements. Avec toutes les mesures qu'ils veulent. Actuellement, le débat est autour de l'accès à l'eau potable. Ça, on a quand même, les firmes nous ont garanti que l'eau potable, c'est un problème qui était résolvable. On a juste à creuser. Si quelqu'un manque d'eau, on creuse plus un peu de cartésien. Il y a les milieux humides, c'est sûr que c'est la nature qu'il faut protéger, mais à un moment donné, il faut faire un choix judicieux entre le milieu humide et la sécurité des gens.
Et là, bien, on privilégie à l'heure actuelle les milieux humides, c'est ce que je comprends?
Bien, c'est ce qui retarde actuellement le début de la construction de la voie de contournement. C'est sûr qu'il y a des opposants, il y a des gens qui sont expropriés, ils ne sont pas contents, puis je les comprends, c'est des citoyens comme moi, puis ils perdent leur petit paradis. Ils font un très grand sacrifice en concédant une partie de terrain. Mais le pire là-dedans, c'est qu'on continue à transporter des matières dangereuses au cœur du centre-ville de Lac-Mégantic. Et hier, quand j'ai appris, moi, la tragédie, la catastrophe qui est arrivée à Repentigny, là, écoutez, j'ai eu des sueurs froides parce que les trains circulaient dans une zone résidentielle, d'après moi, à plus de 40 000 à l'heure, là, avec des wagons peut-être vides, là, de matière dangereuse, mais je suis pas certain qu'ils passent pas dans l'autre sens, des fois, avec des produits dangereux, là.
Il y a quelque chose de super émotif, puis on s'entend que c'est la priorité 1, c'est une tragédie, ça a été décimé, il n'y a pas personne qui ne connaissait pas au moins une personne décédée à Lac-Mégantic. Il y a des gens qui sont encore traumatisés de ça, puis il faut mettre les mots qui importent là-dessus. Quand il y a eu les commémorations, un an plus tard, il y a des gens qui voulaient plus aucun journaliste, plus personne sur le terrain parce qu'ils étaient tannés d'en parler puis d'être tout le temps confrontés à ça, puis d'autres qui avaient besoin de colmater ce défi émotionnel-là. À ce jour, on en est où? Est-ce que c'est pris assez au sérieux?
Écoutez, j'arrive à la commémoration devant l'église, les 47 coups de cloche avec les prières, et puis les gens qui étaient rassemblés autour du monument sont inscrits les noms des 47 personnes, dont je connaissais personnellement 25. Et je peux vous dire que les gens qui étaient là étaient encore épris pas mal d'émotions. Puis avec ce qui est arrivé hier à Repentigny, là, ça s'est frappé, comme on dit. Là, ça a remis les gens pas mal dans le bain. Puis De toute cette souffrance-là, puis de cette inertie gouvernementale, inertie des compagnies, qui préfèrent augmenter le profit au détriment de la sécurité des populations. C'est inacceptable que des trains passent à 40 000 à l'heure, des matières dangereuses, dans des zones résidentielles comme à Mégantic, comme à Repentigny hier, et puis à East Palestine aux États-Unis, en Ohio, en 2023, un wagon de chlorure de vinyle qui a contaminé complètement tout le village, là. Regardez, pourquoi on accepte encore ça socialement que des compagnies, sous le prétexte qu'ils sont la chaîne d'approvisionnement de l'Amérique du Nord, risquent la vie des concitoyens?
Ouais. Avez-vous rencontré des gens du gouvernement fédéral dernièrement, justement, pour tenter d'avoir des réponses à cette inertie-là?
Au fédéral, si on regarde Transport Canada, ça fait 6 ou 7 ministres qui passent.
Ouais, hein?
Avec les différentes équipes. Et on a l'impression que ils apprennent au fur et à mesure leur travail. En tout cas, on doit les aider peut-être un peu plus, là. Mais ce qui est étonnant aussi par rapport à la voie de contournement, c'est l'attitude du Canadien Pacifique, CPKC.
Mm-hmm.
C'est qu'ils ont accepté de travailler sur le projet de voie de contournement, mais sans y mettre un sou à part leur expertise au niveau de l'ingénierie et de la construction. Et ils n'assument aucune responsabilité advenant que des dégâts environnementaux dans le futur ou des... Puis ils ne veulent surtout pas financer non plus les mesures d'atténuation supplémentaires exigées par l'environnement et les différents ministères. Eux, ils disent, ben nous, on a déjà notre voie ferrée, ça va bien, là, puis ça passe, ça ne coûte pas cher. Si vous voulez qu'on on traverse l'autre côté, ben regardez, construisez-vous une belle voie ferrée, là, flambe en neuf, là, on va pouvoir rouler à 40 000 à l'heure, là, puis on va la prendre.
Ensuite. Je vous entends, puis je trouve ça un peu aberrant. En même temps, je me dis, bon, mais si on a la possibilité d'avoir cette attitude-là, c'est que sur papier, il y a un flou et ou un trou. Est-ce qu'il y en a un?
Bien, on sait très bien que les compagnies ferroviaires sont carrément au-dessus des gouvernements. Ils tiennent les gouvernements en otage parce que s'ils cessaient demain matin de transporter les produits manufacturiers, les produits nécessaires aux cultivateurs pour leur récolte, les engrais, les pesticides, les fongicides, les produits pour les papetières, bien, l'économie arrêterait.
Mm-hmm.
Alors, ils sont pris un peu en otage, les gouvernements, face à ces grosses compagnies-là, qui disent « Non, 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 regardez, nous autres, là, c'est finalement, c'est eux qui mènent le trafic. »
Ouais.
Transport Canada, là, avec ses règlements, là, c'est même l'industrie ferroviaire, l'Association des chemins de fer du Canada, qui dicte à Transport Canada quels sont les règlements à mettre à jour ou à appliquer ou à modifier.
Oui, parce qu'à la suite de la tragédie, il y a eu des recommandations de fait. Et là, est-ce que ces recommandations-là sont suivies? T'sais, on comprend qu'il n'y a pas la voie de contournement, mais est-ce qu'on circule avec moins de produits dangereux? Est-ce qu'on circule avec une vitesse moindre ou c'est du pareil au même comme il y a 13 ans?
Mais écoutez, c'est sûr qu'avec le ministre Garneau, on a vu la réglementation pour les fameux des systèmes plus solides, des DOT 117. Mais les derniers déraillements qu'il y a eu aux États-Unis et dans l'Ouest canadien avec des DOT 117, là, les fameux R, là,
mm-hmm.
et à 40 000 $, ils déchiraient aussi facilement. Là, parce que à 40 000 $, ça frappe une infrastructure en béton ou un aiguillage en fer.
Ouais,
le métal, ça ne dépasse pas le 3/8 de pouce. Là.
Si on n'est pas capable de régler un cas comme Lac Mégantic, qui est connu de façon internationale sur la tragédie humaine que ça a créé, tu sais, je me demande, est-ce qu'on a les mains liées puis ça se réglera jamais?
Écoutez, il y aurait des pistes quand même intéressantes. Premièrement, le Pantini, puis ailleurs, faut réduire la vitesse des trains dans les zones habitées. Les zones fortement occupées par soit des quartiers résidentiels ou des agglomérations, des villages. Il faudrait qu'ils passent à une vitesse, moi je jugerais à peu près 25 000 $. À 25 000 $, ça performe beaucoup moins les systèmes lorsqu'il y a des déraillements. Pour ce faire, écoutez, au CN, un des principaux actionnaires, c'est la Caisse de dépôt du Québec. Et c'est aussi la banque royale du Canada. Pourquoi ces actionnaires-là ne disent pas à leur PDG, écoutez, on voudrait vous protéger nos clients?
Ouais, d'autant plus la Caisse de placement de Québec, la Caisse de placement de dépôt du Québec. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que le gouvernement que vous rencontrez, la CAQ ou peut-être les prochains gouvernements, parce qu'on s'en va en campagne électorale, disent qu'ils vont faire pression ou eux aussi de leur côté, c'est l'inertie?
Écoutez, il y a une réunion des actionnaires qui est annuelle. Il y a une présentation des rapports annuels. Puis les PDG se tirent la gravate pour dire aux gens, j'ai augmenté encore de 15% vos profits mm-hmm. cette année, de vos actions. S'il ne le fait pas, souvent les actionnaires lui montrent la porte pour en prendre un plus agressif. Mais par contre, ces actionnaires-là ont quand même une responsabilité sociale aussi, là. Pas juste les bénéfices là, de profits additionnels. Là. Je pense qu'il y a une piste à ce niveau-là qu'il faudrait peut-être à un moment donné faire pression sur les principaux groupes d'actionnaires de ces compagnies-là pour qu'au moins la sécurité soit quand même là, un critère important en lien aussi avec la moins grosse prise de profit.
Non, je suis très, 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 très d'accord avec vous, M. Bellefleur. Merci beaucoup pour votre participation. Robert Bellefleur est créateur de la Coalition des citoyens et organismes engagés pour la sécurité ferroviaire de Lac-Mégantic. On vous remercie pour votre participation, M. Bellefleur.
Merci beaucoup. Au revoir.
Merci, au revoir.
Pas facile.
Robert Bellefleur. Ça n'a pas de sens comme inertie, là. Ça fait 13 ans. T'as, on en parle, c'est une tragédie marquante où on se souvient tous où on était, qu'est-ce qu'on faisait. C'est une communauté entière qui a été endeuillée encore aujourd'hui. M. Bellefleur nous l'a bien mentionné. Les blessures sont encore vives par rapport à cet accident-là. Puis là, ben, ces citoyens-là qui ont vécu ça, ils se lèvent à chaque matin puis ils entendent le train passer avec des produits pétroliers puis ils disent « Hey, sais-tu quoi? Ça pourrait arriver à nouveau. »
C'est des gens qui ont été très patients aussi. C'est des gens
ben
qui
oui.
ont... pendant moi, j'étais là, mettons, 8 mois après.
Ouais, ouais.
Juste pour s'acheter une paire de chaussures, il fallait qu'ils montent à Sherbrooke, qui était à 2h-3h de Lac-Mégantic. On parle de s'acheter une paire de chaussures parce qu'il n'y avait plus rien.
Ouais.
Ils ont reconstruit un petit peu plus loin. Ils ont commencé à reconstruire un centre-ville. C'était tellement beau, le centre-ville de Lac-Mégantic. Maintenant, c'est moderne. Là. C'est, un...
ouais,
c'est
ouais.
beaucoup plus froid. Là. C'est différent. T'sais, au moins, c'est... les gens peuvent ouais. vivre leur vie dans
c'est
le
moins antique. Mais... là, c'est moins patrimonial.
Puis ils ont perdu beaucoup, mais ils ont été patients. Par contre, sur cette façon d'agir-là, puis sur ce problème-là, ce nœud-là, ils ne plient pas, puis on comprend pourquoi.
Mm-hmm.
Mais je trouve qu'il y a un bon grand manque de respect,
oui.
peut-être. Dans
ben, ne serait-ce que si on ne construit pas la voie de contournement qui coûte des centaines de millions de dollars, voire milliards de dollars, ben au moins qu'on permette, qu'on réduise la vitesse des trains pour augmenter le sentiment de sécurité des citoyens puis pour pas qu'une autre tragédie arrive. Parce qu'hier à Repentigny, si les wagons qui sont censés transporter du pétrole n'ont pas fait le vide avant... C'est une boule de feu, là aussi, là,
ben oui,
en plein quartier résidentiel. Là.
Christian, notre auditeur, dit c'est pas tant difficile à comprendre. Quand on lit entre les lignes, on se dit que malheureusement, ils veulent probablement pas créer des précédents puis d'être obligés de faire ça pour chaque ville à risque. C'est
ouais.
un fait, mais après, la sécurité, c'est qui l'endosse? Comment est-ce
qu'on
va
là.
Gérer la suite des choses? Ça peut toujours être mieux.
Ça devrait
dit, primer. On n'aurait pas privatisé le CN, on aurait une oreille à nos demandes. C'est vrai ça aussi,
oui.
Mathieu, c'est un excellent point.
Excellent point, oui. D'ailleurs, le CN qui est un des grands responsables aussi du laxisme sur le pont de Québec, là, rappelons-le, là, ici dans la région de Québec. Donc, disons que c'est pas une compagnie qui est très ouverte. Et comme M. Bellefleur nous le disait, là, malheureusement, les gouvernements sont à la solde là, des compagnies ferroviaires. On va parler dans quelques minutes avec François Larochelle, qui est ex-diplomate du Canada au Liban. On va revenir sur le 250e anniversaire des États-Unis et également sur ses funérailles qui s'étalent sur 3 jours de Ali Khamenei, qui est l'ancien dictateur en Iran, surtout de l'absence de son fils. Mais avant, Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité?
Plusieurs choses. D'abord, aujourd'hui, important de savoir que c'est la grève générale illimitée des ingénieurs du gouvernement du Québec qui est entrée en vigueur. Donc, moins de pression qui était déjà en cours depuis plusieurs semaines, notamment les jeudis, les soirs, les nuits, les fins de semaine. Mais là, on est en grève générale illimitée. C'est une convention collective des ingénieurs du gouvernement qui est échue depuis mars 2023 au Québec. Le troisième lien est de retour dans l'actualité et fait commenter Bernard Drainville qui se dit un peu tanné des experts. Pourquoi? Bien, parce que certains experts, dont entre autres le spécialiste en planification des transports et le président de Gris Orange Consultant, Pierre Barriot, a été cité par Radio-Canada dans les dernières heures et a lancé que c'était certain que le gouvernement du Québec va devoir financer la majorité de l'infrastructure et que le projet va coûter au bas mot 10 milliards uniquement pour la construction, mais on va peut-être se rendre à 12 ou 14 milliards. Donc, pour lui, c'est un tarif qu'il faudrait charger en vue d'obtenir une rentabilité complète. Puis Bernard Drainville a dit « Moi, je suis un peu tanné de tous ces experts qui sont jamais pour le projet. Dans le dossier du troisième lien, vous le savez, le ministre de l'Économie et député de Lévis a milité longtemps et milite toujours en faveur de ce troisième lien à l'est de Québec et de Lévis.
Je le comprends honnêtement. Moi aussi, je suis tanné. Je vais être bien honnête. Là. Je suis tanné de ces articles-là et de ces reportages-là avec des experts qui disent non, faut pas le faire. On élit des gouvernements pour qu'ils prennent des décisions. Puis dans ce cas-ci, le gouvernement de la CAQ, après maintes et maintes reculs, ne leur fait pas tant confiance que ça. Là. Mais là, on prit la décision d'aller de l'avant. Fait qu'à un moment donné, il faut arrêter là, de toujours voir le pire puis se lancer dans le projet. J'ai dit la même chose pour le tramway. Là, à un moment donné, on a pris une décision. Bruno Marchand a été élu. La CAQ a décidé qu'elle allait dans le tramway. Bien, go, réalisons-le. Sinon, dans 20 ans, Pascal, on va encore dire à Radio de Québec, « Ouais, le tramway, c'est pas un bon projet. Ouais, le troisième lien va coûter trop cher. » Puis là, il va être rendu à 38 milliards de dollars. On sera pas plus gagnant.
Mise en demeure envoyée par le CHU de Québec à qui? À l'ancien, au fils de l'ancien journaliste Jacques Tisdale. Donc, c'est sorti. Lui pense qu'on veut le faire taire et il ne se laissera pas intimider. Ce sont ses paroles. Donc, vous le savez que ça fait quelques années maintenant que le fils de l'ancien journaliste, qui est mort dans des circonstances troubles au CHU de Québec, essaie par ses publications sur les réseaux sociaux ou encore ses commentaires dans l'actualité ou dans les émissions d'actualité de parler de ce décès-là de son père qui, pour lui, est tragique et qui est complètement irrationnel. La manière dont on a géré, en fait, la maladie de son père. Rappelons que Jacques Tisdale est décédé en 2024 des suites d'un cancer du poumon diagnostiqué tardivement à l'âge de 74 ans. Puis depuis, ben, sa famille tente de faire la lumière sur la manière dont il a été pris en charge par le système.
Il va être avec nous justement aux alentours de 13h30.
Sommet de l'OTAN, il y a des sous-marins et la Banque de la Défense dans la mire de Mark Carney. Ce temps-ci, dans l'actualité, quand on regarde chacun des médias, il y a toujours une nouvelle sur notre défense ou sur l'armée canadienne. C'est quelque chose d'hyper important, on dirait, au fédéral ces jours-ci et même au provincial, parce qu'on a bien des militaires en ce moment qui sont du côté de l'Europe, là, même Lettonie. Donc, en route vers le sommet de l'OTAN, c'est une priorité du premier ministre Mark Carney. Il va mettre fin aujourd'hui au suspense qui entoure le choix du constructeur pour sa nouvelle flotte de sous-marins. Ce seraient les Allemands qui seraient dans cette mire-là. Donc, l'Allemagne qui construirait les 12 futurs sous-marins canadiens, c'est le gagnant du plus important contrat militaire de l'histoire du pays qui est annoncé aujourd'hui. Il y a également une attaque au palais de justice de Longueuil qui a marqué beaucoup de gens. L'accusé est reconnu coupable malgré ses troubles mentaux. C'est la dernière des informations qu'on a reçues là-dedans. C'est un interprète judiciaire qui avait été poignardé, je vous rappelle, dans un cubicule par un inconnu le 9 janvier 2024. Et ce qu'on a aussi comme information, c'est parce qu'il y en avait contre le système, hein, qu'il l'avait emmerdé. Et là, il est reconnu coupable pour cette attaque gratuite. Et il y a une action collective qui va intéresser bien des gens. Je me ramène en pandémie quand plusieurs vols ont été annulés pendant cette crise sanitaire. Mais maintenant, vous pourriez toucher 500 $ sans même le demander. C'est 8 compagnies aériennes et voyagistes qui doivent maintenant avertir leurs clients qui pourraient toucher un remboursement intégral. Plus de 500 $ en dommages pour un vol ou un forfait qui a été annulé pendant la pandémie. Et c'est autorisé par la Cour d'appel du Québec. Ça vise Air Canada, Air Transat, WestJet, Sunwing et leur filiale Voyage.
Donc, à suivre pour cette action collective. Et si vous voulez en bénéficier, bien, allez-y. Foncez! Cet argent-là vous appartient. Pascal, en fin de semaine, Donald Trump nous a dit « Je combats les communistes ». Est-ce qu'il y a tant de communistes que ça aux États-Unis? Est-ce qu'on en fait tout un plat parce qu'il y a un politicien de gauche à New York, Zoran Mandani, qui a pris les rênes de la ville en tant que maire? Pour en parler avec nous, on a François Larochelle, ex-diplomate du Canada au Liban. Monsieur Larochelle, merci pour votre présence à l'émission L'en jase.
Bonjour.
Monsieur Larochelle, est-ce que justement on a trop de communisme aux États-Unis? Est-ce que Donald Trump a raison?
Ben, comme vous l'avez mentionné, le maire de New York. Mais pour Trump, là, il a étiqueté ça des communistes. Alors, tout ce qui est un peu à gauche, semble-t-il, du Parti républicain aux États-Unis, c'est des communistes. Mais bon, c'est une étiquette qu'il met là-dessus. Est-ce que, évidemment, il y a sûrement encore quelques communistes aux États-Unis, comme il y en a sûrement au Canada aussi. Mais disons, on doit pouvoir les compter sur le doigt d'une seule main.
Donc, Donald Trump se sert de ceci pour tenter justement de sauver les meubles pour les élections de mi-mandat du mois de novembre parce que dans le conflit, et là, c'est là qu'on va embarquer dans votre expertise, dans le conflit avec l'Iran, il n'y a rien présentement qui roule en sa faveur.
Bon, d'abord, actuellement, il y a une pause là, des négociations parce que, bon, c'est les funérailles là, de l'ancien dirigeant là, iranien de la République islamique d'Iran. Alors, semble-t-il qu'il n'y a pas de négociations en ce moment. Je présume que, théoriquement, ces négociations devraient reprendre là après la suite de ces cérémonies. Mais bon, il ne faut pas s'attendre, je pense, à des résultats rapides. Ça va être très long. Il y a beaucoup d'enjeux très importants. D'abord, il y a la question du détroit d'Ormuz. Les Iraniens voudraient imposer des droits de passage. Les Américains s'y opposent et aussi beaucoup d'autres pays. Puis bien sûr, il y a toute la question du nucléaire qui est encore beaucoup plus compliquée. et qui risque de traîner. Là. Je pense que les négociations étaient prévues pour 2 mois, 60 jours, mais ça va sûrement être renouvelé à plusieurs reprises parce que je ne pense pas, qu'en tout cas à ce stade-ci, je ne vois pas l'intérêt ni des Américains ni des Iraniens et encore moins des pays de la région de reprendre la guerre. Alors on peut s'imaginer que ces 2 mois vont être renouvelés souvent pour permettre au cessez-le-feu de continuer et aux négociations de se dérouler. Mais ça va être très compliqué, ça va être très long. Puis on n'a aucune idée non plus si ça va déboucher sur quelque chose de concret, surtout avant les élections de mi-mandat là, de Trump, là, qui va sûrement jouer dans le calendrier des négociations pour les Iraniens.
Pendant ce temps-là, tu es un petit peu mélangé avec le détroit d'Ormuz. Est-ce qu'il est ouvert ou non? Moi, dans les dernières nouvelles que j'ai, c'est très difficile pour les navires de passer.
J'ai l'impression, on en parle moins, là, mais généralement, quand on n'en parle pas, c'est qu'il y a quand même, des choses qui se passent. Alors, je soupçonne que le trafic est probablement ralenti, mais il a quand même repris. Il y a eu effectivement, là, il y a eu un bateau qui avait été attaqué parce que semble-t-il qu'il ne suivait pas le trajet que les Iraniens voulaient qu'ils suivent. Suite à ça, les Américains ont bombardé des cibles militaires dans la région du détroit. Mais on n'a pas entendu parler de grand-chose depuis. Alors, moi non plus, je ne peux pas vous confirmer là, que les bateaux, que le trafic a repris. S'il a repris, il n'a sûrement pas repris au rythme qui existait avant le conflit, mais je soupçonne que les navires recommence à passer, même si c'est à un rythme beaucoup plus limité qu'auparavant.
Ah ben c'est très positif, ça, ce que vous nous apportez comme information. François Larochelle, vous êtes ex-diplomate du Canada au Liban. Parlant du Liban et d'Israël, est-ce que c'est là un peu le bobless de cette entente-là? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire confiance au Hezbollah et à Israël de ne pas se bombarder pendant les négociations? Moi, ma confiance est à zéro, toi, Pascal?
Non, j'ai pas beaucoup confiance.
Ça. Vous qui avez été au Liban, votre niveau de confiance est où sur une échelle de 10?
Je ne sais pas jusque-là. Je vous dirais que pour l'instant, quoi qu'aujourd'hui encore ou hier, là, il y a quand même les Israéliens ont tiré sur une voiture et ont tué 4 personnes, mais ça s'est beaucoup ralenti. On n'assiste pas du tout là, au niveau de bombardement. Auquel on assistait là, il y a quelques semaines. C'est sûr que les Israéliens continuent d'occuper ce qu'ils appellent leur zone de sécurité. Là. Ils ne sont pas partis de là. Mais en termes de bombardement, ça a beaucoup diminué. Combien de temps ça va durer, je ne le sais pas. C'est assez évident que les Américains ont fait des pressions sur Netanyahou pour qu'il se calme. Et les Iraniens ont dû faire la même chose avec le Hezbollah. Est-ce que tout ça va durer? Ça prend qu'une seule des deux parties pour reprendre les combats, pour que tout recommence. Mais pour l'instant, ça semble s'être calmé. Mais pour combien de temps, tout ça reste à voir. Mais c'est clair que les Israéliens sont toujours présents sur le sol libanais. Ils ont même fait des attaques il y a quelques jours en Syrie, où ils occupent là aussi une zone. Donc, de ce côté-là, il y a une diminution des combats, mais la présence israélienne est toujours là. Mm-hmm.
Vrai ou faux, j'ai entendu ceci dans certains médias, que cette pause-là, justement, de bombardement et le fait que le blocus a été retiré sur les ports iraniens permet à l'Iran de recommencer à financer davantage le Hezbollah?
Ça, je ne sais pas, mais c'est clair que les Iraniens et le Hezbollah voulaient lier les deux questions, c'est-à-dire que on règle les négociations. Dans les négociations entre les Américains et les Iraniens, on inclut un volet libanais, parce que c'est clair que le Hezbollah est soumis à l'influence iranienne et que la seule partie qui peut limiter ou mettre un frein aux actions du Hezbollah, c'est les Iraniens. C'est surtout pas le gouvernement libanais. Donc, pour l'instant, les choses sont liées parce que les Iraniens voulaient justement aussi arrêter les attaques israéliennes. Mais en retour, ils auraient accepté là, de faire pression sur les Hezbollah pour qu'ils arrêtent aussi d'attaquer Israël. Alors, pour l'instant, il y a comme un cessez-le-feu. Combien de temps ça va durer, ça reste à voir. Je n'oserais pas faire de promesses ou de prédictions.
Non, on ne peut pas de toute manière, j'ai l'impression.
Hein? Vraiment
non,
pas.
Non.
Un petit mot en terminant, M. La Rochelle, sur le sommet de l'OTAN-Turquie qui va avoir lieu mardi et mercredi de cette semaine. Est-ce qu'il faut s'attendre à un grand flattage de dos de Donald Trump comme on a vu au G7 et tout le monde va tenter d'être ami avec lui?
Probablement. Il y a Zelensky aussi là, qui a besoin d'aller chercher de l'armement pour arrêter les drones et les missiles russes là, sur l'Ukraine. Mais c'est sûr qu'ils vont, les gens vont être là pour essayer de faire en sorte, parce que Trump menace toujours là, de quitter l'OTAN. Alors, il veut être le centre de l'attention mondiale. Il va sûrement vouloir continuer de le faire. Et puis, les dirigeants internationaux commencent maintenant à comprendre comment le contrôler. On l'a vu lors de plusieurs sommets récemment. Ils ont, notamment du G7, là, Macron s'était arrangé pour inviter Trump à un grand dîner, là, un grand souper au château de Versailles pour le forcer à rester pendant tout le sommet. Je ne sais pas si le président turc va lui aussi lui offrir un grand repas, mais c'est évident que là, les dirigeants internationaux savent maintenant quoi faire pour le calmer. Évidemment, ils vont tout faire pour que Trump ne fasse pas d'esclandre. Mais bon, on peut pas savoir ce qui va se passer avec lui, mais oui, ils vont sûrement jouer le même petit jeu qu'ils jouent habituellement avec lui. Et lui va faire en sorte que tous les médias s'intéressent à ce qu'il dit. Puis là, il y a toute la question autour du football, là, du soccer.
Il a dit ce matin, j'ai appelé le président de la FIFA, j'ai fait retirer le carton rouge, j'ai regardé la reprise vidéo, Pascal, ce n'était pas un carton rouge. Il a dit après ça, je m'y connais rien en soccer, mais lui... Il le savait.
Ça me fait capoter. Ouais, ouais. Là. Tu peux pas t'ingérer dans le sport. Même dans les guerres mondiales, on essayait de sécuriser ça.
Oui, mais c'est qu'il veut toujours attirer l'attention sur lui. Là. Il va sûrement faire la même chose en 40 Turquie. Et puis, bon, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est clairement l'Ukraine qui devrait être le thème principal. Et aussi le pourcentage d'investissement que chacun des pays doit mettre maintenant pour satisfaire aux demandes de l'OTAN. Et c'est dans ce contexte-là, sûrement, que le premier ministre Carney là, va annoncer là, l'octroi de... ou l'entente, en tout cas pas l'entente, mais la décision du gouvernement canadien pour le pays ou la compagnie ou les compagnies qui vont obtenir le contrat des sous-marins.
Oui, exactement. C'est une compagnie allemande là, qui les a obtenus. Ouais. Oui. Monsieur François La Rochelle, ex-diplomate du Canada au Liban, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Je vous souhaite une excellente journée. On se reparle bientôt.
Allez, au revoir.
Merci. Au revoir. François La Rochelle, ex-diplomate du Canada au Liban. Comme nous, Pascal, il n'y a pas une grande confiance envers Israël.
Non, puis il y a la crédibilité pour l'évoquer.
Exactement. Là, on a bien rigolé lorsqu'on a posé cette question-là. En passant, c'est ce soir, 20h, en direct de Seattle, que les États-Unis affrontent la Belgique. Donc, ça va être le match à suivre à la Coupe du monde aujourd'hui. À 15h, c'est le Portugal contre l'Espagne. Est-ce que ce sera le dernier match de Ronaldo en Coupe du monde? Il a dit que c'était sa dernière Coupe du monde.
Ça va être très chaud, ça
Exactement. Et du côté américain, bien évidemment, on va surveiller le joueur Follarin Balogun. C'est lui qui s'est fait retirer son carton rouge. C'est lui qui va jouer. C'est un des meilleurs joueurs des États-Unis. Et d'ailleurs, Donald Trump, tantôt, qui a dit « Ah, j'adore Harry Kane de l'Angleterre. J'adore aussi Lionel Messi. » Imaginez si un de ces deux joueurs-là avait été suspendu. Comment ça aurait terni le tournoi. Alors, c'est pour ça que j'ai appelé le président de la FIFA. La Belgique qui est allée en appel, mais ça fonctionnera pas.
Ça en invente, là.
Ah ouais, exactement. Donc, ça va être très particulier comme ambiance
mais
ce soir 20h.
Mais je trouve qu'il pousse les limites d'où la politique peut s'ingérer.
T'as tellement raison.
Aussi stupide et un peu loufoque que ça paraisse en ce moment, moi, je le prends au sérieux.
Ben oui!
Qu'un président fasse ses appels.
Ah, moi, là, je ne comprends pas comment on peut accepter qu'un président parle au président de la FIFA qu'après ça, il y a une décision qui soit rendue. Peu importe si la FIFA serait revenue sur sa décision, juste le fait que Donald Trump ait parlé avec le président de la FIFA, ça crée scandale parce que la Coupe du monde, premièrement, est aux États-Unis. Mm-hmm. États-Unis, Mexique, Canada. Mais tous les matchs des Américains sont aux États-Unis. Alors, il y a un côté très politique à ça. Et le sport doit toujours se détacher de la politique. Tu sais, Donald Trump est même allé jusqu'à dire « Cet arbitre-là a un mauvais pedigree. Il a pris des mauvaises décisions dans sa carrière. C'est pour ça que j'ai appelé. » Tu sais, là, ça fait plus de sens. Là. J'ai écouté cette conférence de presse surnaturelle ce matin. Oui. Toujours surnaturelle avec Donald Trump, de toute façon, mais là, ça l'était encore plus. On jasait de Coupe du monde. Alors, bien hâte de voir... comment les spectateurs vont se comporter ce soir, advenant le cas. Justement, t'as les spectateurs qui prennent pour la Belgique. Là. Si les États-Unis gagnent, puis imagine s'ils gagnent sur un but de Balogun, comment on va réagir? Bien hâte de voir, très hâte de voir aussi l'arbitrage qui avait favorisé un peu le Portugal là, face à la Croatie. Donc, hâte de voir comment ça va être contre l'Espagne.
Toi, tu avais détesté ça. Ah! Tu disais que la vedette là, prenait trop de place.
J'avais haï ça.
Il était trop apprécié.
Des rappels, on va à reprise vidéo, on revient, on comprend pas trop ce qui se passe, ça prend du temps. c'est ça. J'ai bien hâte de voir tout ça. Donc, 15h Portugal-Espagne, mais surtout 20h ce soir États-Unis-Belgique. C'est le match à ne pas manquer. Pascal, t'es-tu comme moi? Tu t'ennuyais-tu de Farnell Morrissey, notre chroniqueur?
Ben oui, je l'adore, mais exactement. Il est en politique, donc on ne peut que lui parler de politique.
En plein ça, mais là, il a fait une petite sortie que, d'après moi, ses amis libéraux n'aimeront pas.
Il a l'air tout souriant. Mais j'ai vu ça la semaine passée.
Ben
je
oui,
me suis dit, Colin, il est fidèle à lui-même, il dit ce qu'il pense.
Il est allé à un podcast du Oui Québec.
Ouais.
Puis il y a du cas, l'indépendance, ça pourrait être une option. Mais là, il se présente pour le Parti québécois ou le Parti libéral?
Il a toujours été très près de ses idées, Farnell Morissette. Il a toujours tenu la ligne directrice pour laquelle il croit dans sa vie.
C'est ça.
Est-ce que ça fait l'affaire d'un parti politique? Parce que c'est supposé de te mettre derrière les rangs.
Yannick Marceau a dit ce matin à Farnell Morissette, « Écoute-moi, Farnell, décrisse de la politique!
» Mais j'ai hâte de l'entendre, il va être en studio.
Ouais, c'est ça. Il est installé, il est là. On fait une courte pause et on jase avec Farnell Morissette, candidat pour le PLQ dans Taschereau.
Jusqu'à 14h. Boulevard 102.1.
Et oui, 100% parler tout l'été, c'est l'émission dans jase. T'es à la maison, t'es en vacances. T'es sur le bord de la piscine, hein? Parce qu'on va se le dire, Pascal, avec la température qu'il fait à l'heure actuelle, 28 degrés. 29 degrés demain, 29 degrés mercredi. Ça, c'est juste du soleil, les amis.
Il fait plus soleil que ce week-end-là. Il y a moins de nuages.
En plein ça. 25 nuageux pour jeudi, puis on repart dans le soleil vendredi, samedi à 26-28. Fait que let's go sur le bord de la piscine. Ton haut-parleur intelligent, tu dis écoutez BLVD 102.1 et paf, ça apparaît dans les oreilles. Moi, j'ai pas de piscine chez nous, mais en fin de semaine à maison, écoutez BLVD 102.1, puis bang, c'était Colosse qui apparaissait avec le boulevard du Rock ou les Colosses du Rock. Chapeau à mon chum Joe Plamondon qui me fait toujours découvrir des choses en musique. J'ai appris en fin de semaine que Pour Some Sugar on Me de Def Leppard était même pas prévu. C'est le guitariste qui s'est mis à jouer avec sa guitare. Puis là, la sonorité que ça faisait, le producteur a dit « OK, ça va être ça notre hit ». Ils ont écrit la toune. Bang!
Puis ceux qui ont écrit la toune, là, on a-tu passé une nuit de...
D'après moi, oui. Ah, okay. Une petite nuit de débauche. Ouais,
un c'est ça. Un petit quelque chose de chafrage.
Un petit quelque chose de rock and roll. Pascal, problème dans la circulation?
Ouais, je veux juste rementionner que sur l'autoroute 40 Est, à la hauteur de l'avenue Blaise Pascal, la voie centrale, la voie de droite sont bloquées. Il y a un accident, ça commence à être long, là. Ça fait une heure peut-être qu'on est là-dedans, fait que c'est sûr que ça a ralenti le secteur.
Farnell Morissette, candidat dans Taschereau pour le Parti libéral du Québec est avec nous en studio. Comment ça va, mon ami Farnell?
Ça va bien. Vous autres, comment ça va?
Ça va ah, super bien. Bien. Donc, Farnell, je continue à t'appeler Farnell, même si t'es rendu
j'espère.
Un politicien.
Ça serait
monsieur
weird.
Hein?
Monsieur Morissette.
Vous voyez tant qu'à y être.
Là, qu'est-ce qui s'est passé, Farnell? T'es allé à un podcast de Oui Québec.
Ouais, des Générations Oui.
Génération Oui. Puis là, t'as dit, ben, si on n'a pas d'autre option, c'est l'indépendance du Québec. Tu te présentes tout pour le PQ, finalement. Tu penses quoi?
T'sais, première des choses, ce balado-là, là, OK, je veux pas péter ma coche, mais je veux comme peut-être décocher un petit peu parce que ça m'énerve. Là. Je veux dire, on dit qu'on veut des politiciens qui expriment le fond de leur pensée, qui ont de la nuance, qui ont des discussions de fond. Et puis, je veux dire qu'ils sont prêts à parler avec des gens qui sont, avec qui ils ne sont pas d'accord, prêts à travailler avec des gens qui ne sont pas d'accord. Puis là, là, je veux dire, moi, j'y crois fondamentalement à ça. Je pense que c'est super important. Quand Génération Oui m'a invité, j'étais heureux d'y aller pour avoir une belle discussion.
Ben oui!
On a eu une super belle discussion d'une heure et demie. On a parlé de plein, plein, plein de choses différentes.
Mais là, t'as dit
puis la seconde, la 8 secondes où un journaliste peut le retirer sans donner le contexte, sans quoi que ce soit d'autre, là, bang! C'est de ça qu'on parle. On se demande après pourquoi les politiciens se développent de la langue de bois. Là. Je veux dire, ça m'énerve,
ouais,
mais genre,
je suis
en train de le vivre live, là, puis là, à partir de maintenant, la prochaine fois, est-ce que je vais donner une espèce de réponse d'évasion, de blabla? J'espère que non,
bon, reste,
mais
reste
en même temps, ça m'écœure. Ça m'écœure parce que c'est sorti de nulle part. Il n'y en a pas de malaise. Personne m'en a parlé. Si le journaliste m'avait juste appelé, j'aurais pu y dire. Il m'a même pas parlé. Il a balancé ça un vendredi après-midi. Je veux dire... Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que ça crée du cynisme, puis on mérite mieux que ça. On a mieux à parler, on a des vrais enjeux à régler, puis c'est pas ça. Là.
On est dans l'air du temps, tu le sais que ça va vite, la nouvelle, ça va vite. C'est peut-être bien un courriel qu'a reçu le journaliste et tout ça. Alors, rectifie donc tes propos, parce que là, tu te dis, j'ai été cité hors contexte.
Non, non, je dis pas que j'ai été cité hors contexte, j'ai été cité sans nuance.
Qu'on va te laisser
le
rectifier.
Tu sais, ma position, fondamentalement, c'est la même que Robert Bourassa. Là. J'espère que ça surprend personne. Tu sais, on parlait dans une réalité théorique, lointaine, où si plein d'autres choses se sont pas produites à l'avance, puis il y a eu plein de choses qui sont différentes, est-ce que là, il faut être ouvert à envisager d'autres options? Puis oui, je suis ouvert à envisager d'autres options. T'imagines-tu un politicien qui dit « Non, jamais je vais considérer, même dans mon esprit, tenir la possibilité d'une idée différente. » J'espère qu'on va pas élire ce politicien-là.
Mm-hmm.
Alors, oui, tu sais, c'était dans ce contexte-là. Puis je pense qu'à partir de là, retirer l'espèce de segment sans y donner toute la nuance puis le contexte, c'est un petit peu dommage.
Pour rappel, Robert Bourassa l'avait fait en 1990 avec l'accord du Lac-Meech où à la Saint-Jean-Baptiste, il a fait un discours très patriotique à tel point que Jacques Parizeau s'est levé à l'Assemblée nationale et il a appelé Robert Bourassa « mon premier ministre ». Donc, c'était pour dire à quel point les libéraux et le PQ étaient rendus sur la même ligne. Puis c'est justement en raison de chicane avec le fédéral.
Est-ce que tu es le Bernard Drainville des libéraux en ce moment?
Non.
Avec cette réponse-là?
Non, non, non.
Bernard
non.
qui est un peu à mots couverts. Mais...
Non, non, pas du tout. Je veux dire, c'est encore une fois, là, je veux rappeler le contexte. On parlait dans une situation théorique, lointaine. C'est un balado spécifiquement pour parler d'indépendance. À laquelle je m'oppose. Je veux dire, je vais être clair là-dessus. Là. Mm-hmm. Je me présente avec le Parti libéral. Là. Je veux dire, faut comprendre.
T'es pas devenu souverainiste?
Non, non, absolument non. pas. Là.
Ils t'ont pas convaincu?
Non, non, non.
Puis, Max Larouche t'as pas encore convaincu?
La discussion a été bonne. Mais tu sais, l'enjeu, c'est pas parce qu'on est capable de parler d'enjeux théoriques que je pense que l'enjeu principal présentement, c'est ça. Là. Moi, je m'aligne très bien au fait que, tu sais, moi, je me présente en politique pour parler d'investissement local, d'investissement social, de défendre nos droits. Puis pour ça, il faut qu'on parle d'économie, il faut qu'on parle de crise de logement, il faut qu'on parle d'abordabilité. C'est ça, moi, c'est ça que je veux faire, puis c'est ça qui compte. Le reste, c'est pas prioritaire.
Quand Charles Milliard t'a appelé, ça s'est bien passé? Ou...
Oui. Ma connaissance
parce que Charles Milliard a toujours,
excellente. Là.
Charles
oui,
Milliard oui. a toujours dit que son modèle politique, c'était Robert Bourassa. Fait que moi, quand je t'ai entendu dire ça, j'ai dit, le chef sera pas trop fâché.
Ben, tu sais, moi, une des choses que je veux jamais faire avec n'importe qui, c'est parler en leur nom quand ils sont pas présents. Puis pour des raisons évidentes aussi, je pense que c'est important de tu sais, quand on a des discussions avec les gens, de pas commencer à balancer ça sur l'appel public. Mais je reste totalement confiant. L'alignement avec Charles Milliard entre moi et lui est excellent. Il n'y a pas de problème là. Puis avec le reste du parti aussi, il n'y a pas de problème. On peut avoir des discussions.
OK, même les députés lointains à Montréal, dans les secteurs anglophones,
comme
disent « Farnell, vas-y, mon électron libre ».
Il n'y a pas de malaise. Je ne sais pas ça vient d'où, ce malaise-là. Je ne sais pas c'est qui les sources anonymes derrière ça. Là. Je veux dire, il y a c'est sorti de nulle part. Je savais pas de quoi il parlait. Puis à ce jour, je ne sais toujours pas. Là. Moi, il n'y a personne qui m'a reproché quoi que ce soit que j'ai fait ou j'ai dit à ce balado-là.
En tout cas, Farnell, tu es très émotif, engagé. Puis les auditeurs aiment ça, Pascal, au 418-971-1021. Ils disent « Caroline, j'ai jamais entendu Farnell de même. » La graine
non, mais
de
c'est parce que je veux dire, on dit qu'on veut des politiciens qui vont dans la
d'accord.
nuance, qui prennent le temps de parler aux gens, qui sont ouverts à des idées différentes. Puis là, quand c'est exactement ce que je fais, parce que j'y crois moi aussi... on se fait balancer des affaires de même un vendredi après-midi par quelqu'un qui m'a même pas appelé moi pour avoir mon commentaire. Je veux dire, je trouve ça un petit peu poche.
Y a-t-il une petite partie de ça pour la suite de la politique qui serait intéressante, du genre, tu sais, on comprend l'unicité puis l'union qu'on doit avoir au sein d'un parti politique sur les idées, les grandes idées générales, mais un peu comme une coalition peu ou tenter d'offrir, d'avoir aussi une pluralité d'idées, réflexion sur un sujet. Est-ce que c'est ça, le futur de la politique pour ramener l'authenticité, pour ramener les gens à adhérer à la politique, selon toi?
J'espère que oui. J'espère que oui. Les députés pour qui on vote, pour qui on donne le mandat de nous représenter, ils nous représentent les électeurs. Moi, je demande le mandat de représentation des électeurs de Taschereau. Ça veut dire que des fois, ça se peut qu'il y ait des désalignements avec la ligne d'un parti à quelque part, puis il faut avoir l'intelligence, il faut faire confiance à l'intelligence des gens de dire c'est possible d'avoir des petits désaccords ici et là et quand même travailler ensemble. C'est pas juste possible, c'est nécessaire. Je comprends que je suis une bibitte un peu bizarre en politique.
C'est clair.
T'sais, je le comprends, ça. Puis je comprends qu'il y a des gens dans la sphère médiatique qui ont de la misère à le comprendre. Mais je veux dire, moi, j'ai aucun problème à dire si jamais je suis pas d'accord avec quelque chose, que je suis pas d'accord avec cette idée-là, mais que je suis quand même capable de travailler avec du monde.
Tu vas parler avec ton chef?
Oui, j'ai eu des discussions du genre, avant de me lancer avec le Parti libéral, j'ai eu des bonnes, longues discussions avec Charles Millard pour être en confiance que j'allais être capable de faire de la politique de la façon que je voulais le faire, et je suis encore en pleine confiance. Puis, encore une fois, je comprends que c'est bizarre. Je comprends que le modèle standard qu'on a en politique, c'est quelqu'un qui est un candidat se présente, puis il se cache des médias, et puis il dit oui à tout, mais je veux dire, on n'est plus dans cette réalité-là aujourd'hui, je pense, et puis j'ai pleinement confiance qu'il y a plein de candidats intelligents à qui on peut poser des questions, puis sont capables de donner des réponses, puis après ça, il faut juste faire confiance d'un côté à la classe médiatique de correctement rapporter tout le contexte, puis après ça, faire confiance à l'intelligence des gens, de comprendre ce qui se passe. Là.
Farnèse, ça s'arrête où, l'individualité en politique dans un parti?
Tu sais, je pense qu'en tout temps, un député doit représenter ses électeurs au gouvernement. Le rôle d'un député, c'est ça. Le rôle d'un député, c'est pas de représenter un parti auprès des électeurs. À l'intérieur de ça, par exemple, la politique, ça se fait toujours en groupe, ça se fait toujours en équipe. Alors, il faut être capable de trouver des terrains d'entente. Puis ça veut dire des compromis, des fois. Puis je veux dire, ce serait vraiment le fun, là, taper sur mon bureau, être dans l'opposition, puis chialer, puis me donner bonne conscience de faire appel à la vertu toujours. Mais à un moment donné, si on veut vraiment faire avancer des dossiers, si on veut vraiment aider le monde, il faut qu'on soit prêt à travailler avec des gens, à faire des compromis. Puis des fois, ça veut dire qu'on ne gagne pas tout ce qu'on veut, mais que ce qu'on gagne, on le gagne, puis on le gagne pour de vrai.
Parlant de ton comté de Taschereau, bon, on n'invente rien, crise de l'itinérance. Ouais. Tu as visité Lauve-Rivière la semaine dernière?
Oui, j'ai visité Lauve-Rivière, oui. Ben ça a été, je dirais, Éric Boulay, un homme exceptionnel. Il a été très, très généreux de son temps. Je suis très reconnaissant.
Tu vois ça comment, la problématique des campements à l'heure actuelle? À l'heure actuelle, on démantèle les campements, mais là, il y a plusieurs organismes communautaires qui sont sortis pour dire « Hey, ça serait cool qu'on trouve un coin comme ça. On aurait accès plus facilement aux itinérants. On pourrait les amener plus facilement dans les ressources. » Tu te situes où par rapport à ça?
Ma position primaire, c'est qu'il faut qu'on s'occupe des êtres humains. Ça, c'est des êtres humains, c'est des concitoyens, c'est nos voisins. On a une responsabilité morale envers eux. Et en l'absence d'une solution parfaite, il faut au moins pas mettre les gens plus dans la misère. C'est un des principes fondamentaux que je vais défendre, c'est l'article 2 de la Charte des droits et libertés, la Charte québécoise, qui garantit que tout être humain dont la vie est en péril a droit au secours. Puis un être humain qui n'a pas de logement au Québec, ça, c'est un être humain dont sa vie est en péril. Il a droit au secours. Alors, je ne crois pas qu'une politique où on fait juste dire on essaye de faire qu'au moins on ne les verra pas, là, ça, ce n'est pas une façon correcte de faire les choses. Il faut que les ressources soient là pour accueillir les gens. Et il ne faut surtout pas qu'à défaut d'une bonne solution, on adopte une solution qui rend les choses encore pires qu'elle les présente.
T'es-tu comme nous autres, ça t'a-tu fâché de voir que Bruno Marchand faisait une conférence de presse puis il a justement tassé les itinérants qui étaient au parc Jean-Paul Lallier puis on n'a pas su y être rendu?
Ben, tu sais, une des choses que moi, tu le sais, là, je respecte beaucoup, c'est l'autonomie municipale. Je pense qu'il faut faire très attention parce que l'autonomie municipale est toujours fragile. En tant que personne qui se présente au niveau provincial, je veux pas donner l'impression que je vais aller me mêler des questions municipales, mais je pense pas que la solution à l'itinérance, c'est de faire semblant que ça n'existe pas.
Oui, c'est ça. Faut vraiment le prendre en main. Je suis d'accord avec toi. Je partage le tout à 100%. Troisième lien, t'es-tu comme Bernard Drinville? Tu t'annais de ces articles-là dans les journaux qui disent « ça va coûter trop cher ».
Des experts,
sera...
hein, il est tanné des experts. Ouais,
ben moi, je serais jamais tanné des experts, malheureusement. Je peux pas prendre cette position-là. Là. Je pense qu'il faut, écouter nos experts. Mais tu sais, le troisième lien, je pense que ça a tellement été politisé comme dossier. Entre autres par la CAQ. Est-ce que ça en est devenu, je veux dire, ça en est devenu une espèce de carotte et de bâton que chaque fois qu'on avait besoin d'aller chercher un petit boost dans les sondages, on changeait de position là-dessus chez la CAQ. C'est un projet d'infrastructure. Pourquoi c'est devenu un enjeu identitaire?
Ben, c'est ça, on peut, c'est un pont.
C'est un pont.
On peut-tu encore faire un pont au Québec?
Je veux dire, on est capable de faire des choses de façon intelligente. Il y a des enjeux super, super importants là-dedans. Je veux dire, en effet, on ne veut pas avoir un projet qui va faire de l'étalement urbain sauvage. Il faut qu'on protège nos terres agricoles. Il faut absolument qu'on favorise le transport en commun. Il faut densifier la ville. Mais c'est un projet d'infrastructure. On devrait le traiter comme n'importe quel autre projet d'infrastructure. On ne fait pas 4 élections sur un viaduc. Là. Je comprends que c'est un projet d'infrastructure important.
J'adore.
Mais quand même, il faut à quelque part qu'on soit capable de laisser de un aux experts la capacité de faire leur expertise, ouais, de conseiller le gouvernement. Et puis après ça, il faut laisser la place au gouvernement de pouvoir regarder les options puis prendre la décision qui s'impose.
Dernière question pour toi, Fernel Morisset, candidat du PLQ dans Taschereau. Qu'est-ce que tu as découvert de ta circonscription depuis que tu te promènes, tu rencontres les gens, tu tisses ton plan politique? Y a-t-il quelque chose que tu as découvert? Tu as dit, ça vient de me frapper dans la face, j'avais pas vu ça de moi.
Quand même, ça fait longtemps que je vis là, j'ai grandi là. Découvert, c'est un grand mot, mais redécouvrir, disons.
Oui, donc.
Tu sais, c'est une circonscription qui représente très bien l'ensemble de la société québécoise, sauf peut-être, je veux dire, évidemment, il n'y a pas de mine puis il n'y a pas de ferme. Oui. Là, mais tu sais, tu as la rue des Braves. Et puis, tu as le quartier Saint-Roch.
En effet.
Tu as le Vieux-Québec. Et puis, tu as toutes les compagnies de technologie qui sont en train de développer. Tu as le port du Québec, tu as les plaines d'Abraham, tu as l'Assemblée nationale, tu as la mairie. Il y a tout. Tout ce qui se trouve au Québec se trouve à quelque part socialement dans la circonscription de Taschereau, du centre-ville de Québec, Hauteville, Basseville. Puis ça, c'est super beau à voir parce que c'est justement tous ces gens-là qui vivent à proximité les uns des autres. Tu peux marcher et aller d'une réalité sociale à une autre. Et c'est des gens qui se côtoient. Et je pense qu'on devrait favoriser que ces gens se côtoient-là le plus possible pour comprendre le plus possible leur réalité respective.
À première vue, qu'est-ce que tu voudrais faire de différent ou quel défi tu voudrais relever si tu es élu comparativement à ce qui a été fait dans les 4 dernières années, par exemple?
On ne peut pas passer à côté du fait qu'il y a des centaines, peut-être même un millier et plus de nos concitoyens qui sont soit en situation d'itinérance ou en précarité de l'être.
Fait que c'est vraiment la priorité.
Pour moi, c'est la priorité. Je veux dire, oui, je suis un grand défenseur des droits et libertés, mais fondamentalement, si tu n'as pas un toit sur la tête, tu n'en as pas de droit, tu n'as pas de liberté, ta vie est en danger. Moi, c'est ça. Puis je comprends qu'il y a plusieurs autres personnes qui vont dire ça, mais je veux dire, je regarde la réalité malheureuse depuis les 4, 8, 10 dernières années, c'est que malgré des très belles paroles de gens que je suis convaincu ont les valeurs à la bonne place, l'action ne suivait pas.
Bien, la réalité, c'est que j'aime bien entendre parler de Lionel Carman, mais j'aurais aimé le voir agir davantage.
Oui, puis je veux dire, il y a une question de représentativité locale, là aussi, je pense.
J'ai des très bons contacts avec Étienne Grandmont de mon passage dans le communautaire en Basseville de Québec. Mais force est de constater que ça n'a pas avancé comme ça aurait dû avancer.
Mais c'est bizarre parce que tout le monde est un peu lié dans cette cause-là. Tout le monde semble vouloir s'entraider. Puis si ça ne débloque pas, il y a peut-être des enjeux qu'on n'a pas entre les mains. Est-ce que tu en vois tranquillement pas vite que tu dis « Ouh, ça va être plus ardu qu'on pensait? »
Ben, je pense que c'est beaucoup une question d'économie. Il faut qu'on ait des moyens. Je veux dire, encore une fois, je suis de tout cœur avec tout le monde qui a les bonnes intentions à la bonne place, puis il n'en manque pas. Mais si on n'a pas les moyens de se donner les ambitions, de se donner les outils nécessaires pour financer les organismes communautaires, pour leur donner un financement qui est stable. On a beau avoir toutes les meilleures intentions au monde, ça va être difficile à agir.
Puis quand tu parles de moyens, tu le vois où? Moi, tu sais, j'arrête pas de dire que je trippe sur le filet social du Québec, mais pour garder ce filet social-là, il va falloir développer nos ressources naturelles.
il va falloir qu'on... Oui, tu sais, il faut qu'on développe l'économie. Puis là-dessus, je pense, quand, souvent, quand on dit ça, les gens ont l'impression qu'ils vont faire des coupes sauvages. Puis non. Développer l'économie, moi, surtout, je veux dire, dans en même temps, où, à Saint-Roch, où tu vois les gens qui ont des gros problèmes encore de précarité, tu as aussi un essor de compagnies de haute technologie qui sont en train de créer énormément de valeur, mais qui sont freinées par, malheureusement, des décisions administratives qui leur donnent trop de paperasse, qui leur met les bâtons dans les roues. Et puis, je pense que le plus on est capable de permettre aux gens de faire leur travail. Puis ça, c'est vrai pour le privé, c'est vrai pour les organismes communautaires, c'est vrai pour le public. Il faut qu'on décentralise la prise de décision. Il ne faut pas que ce soit du one size fits all qui vient du gouvernement, puis qu'après ça, ça adapte pas très bien à chaque réalité.
On l'entend beaucoup, mais on dirait que ça se fait pas.
Je vais pousser fort pour le faire. Puis écoutez, vous venez de me voir, là. Moi, je suis prêt à dire ce que je pense. Puis même si ça va pas nécessairement, j'ai pas vérifié avec les coms du parti avant de dire ce que je dis. J'y crois, puis je vais pousser là-dessus.
Farnel Morissette, toujours un plaisir que tu viennes en studio, comme tous les politiques. Vu que tu es maintenant un politicien, puis il n'écoute pas Marceau qui dit « Sac ton cœur! »
Non, mais j'y crois à nos institutions. Mais je comprends que je suis une bibitte bizarre, mais je vais continuer à être bizarre parce que je pense qu'on en a
besoin. Mais comme tous les politiciens, on en jase, vous êtes toujours les bienvenus. J'adore avoir des conversations respectueuses puis des conversations où on se projette dans le Québec. Alors, merci d'y participer, d'y contribuer. Tu t'en vas à TVA, là?
Malheureusement, fait que là, on va voir ta face à occuper l'espace. Oui, puis je veux dire... J'aimerais vraiment qu'on soit capable. Si on prenait toute cette attention-là pour parler justement des personnes en situation d'itinérance, peut-être qu'on serait capable de le régler un peu plus vite. Mais bon, ça, c'est pas dans mon contrôle, malheureusement.
C'est un bon point. Farnel Morisset, merci beaucoup. On se reparle bientôt. Continue ton excellent travail. Salut. Farnel Morisset, maintenant candidat pour devenir député de la circonscription de Taschereau. Si jamais il n'est pas élu, parce qu'on va le reprendre comme chroniqueur.
Oui.
Si il est élu, on va l'inviter comme politicien.
Oh, ça va me faire plaisir.
Ça
va te faire plaisir?
Ça va me faire plaisir revenir en tant qu'élu.
OK, parfait. Excellent. Salut, Farnel.
Salut.
Jusqu'à 14h, on en parle tout l'été.
Émission d'En jase. Il est présentement 13h31. C'est votre émission d'actualité du midi sur Boulevard 101 pour la période estivale. Jeff Fortin, Pascal CV cette semaine. Et pour les trois prochaines semaines, ça sera Pascal CV avec Mathias sur Côte de 11h à 14h.
On a brassé un peu les cartes, là, on fait un putsch.
C'est un point jazz au lieu du point de Max.
Je dirais pas que des jeux de mots, parce que le point, ça peut dérailler.
Ouais, c'est ça.
Ouais.
Ou on en max.
Le point P.
Hey, vous venez d'entendre sa voix, c'est un ami de la station, Olivier Teasdale, qui a vécu, il y a de ça déjà 2 ans, Olivier, c'est bien
ouais,
ça?
Ben, ouais. Dans quelques jours, ça va faire 2 ans.
Ah ben, mes sympathies à nouveau pour le décès de ton père, ça va faire 2 ans. Et malheureusement, Jacques Teasdale, avec les photos qu'on voit, j'hésite pas à le dire, a été victime à l'heure actuelle de mauvais traitements. Olivier est en attente, justement, toute sa famille, du rapport du coroner qui va être dévoilé dans 2 semaines, Olivier?
Alors, on attend ça à la fin du mois. Écoute, après un bon bout de temps, là, on va être content de lire ça puis d'aller chercher les réponses auxquelles on a droit d'avoir parce que je pense que depuis 2 ans, on est en mesure d'avoir des réponses dans ce qui s'est passé.
Exactement. Mais là, revirement de situation cette fin de semaine, Santé Québec. Je suis certain que Santé Québec, premièrement, ils t'ont toujours dit « mes sympathies, on est avec vous ». Ils ont été super bienveillants, je pense.
Écoute, je pourrais te dire du jour 1 à aujourd'hui, il n'y a jamais personne de Santé Québec ou du CHU de Québec ou appelez-les comme vous voulez qui m'a donné une poignée de main pour me dire « hey, M. Teasdale, c'est triste, qu'est-ce que vous voulez ».
Oui, c'est ça. Exactement.
Ou que ce soit du gouvernement aussi ou politiquement, jamais.
Ben, c'est ce que j'allais dire, le ministre de la Santé, tu as réussi à le voir.
Ah non, pas encore. J'attends mon verre d'eau. Okay. J'attends mon verre d'eau depuis 2 ans, un petit 30 minutes.
Un petit 30 minutes, un verre d'eau, pour que ce soit Christian Dubé ou Sonia Bélanger, le verre d'eau pas encore arrivé.
Puis c'est pas parce qu'on n'a pas essayé.
Ben non,
on a fait des regroupements en avant du Parlement. On s'est présenté à la maison de ces gens-là pour dire hey, on est là. Puis le dossier Jacques Teasdale, il faut que ça change.
Ben oui.
Parce qu'il y a un aspect politique dans le dossier de mon père aussi. Il faut le comprendre.
J'ai envoyé une de tes entrevues que tu as fait sur Boulevard 102.1 à l'attaché de presse du premier ministre, à l'attaché de presse du ministre de la Santé. On disait hey, écoutez ça. Je pense que ce gars-là mérite d'être écouté. Puis ça a fait patate. Donc, il n'y a rien eu. Alors, tous ces beaux gens-là bienveillants, ben, dans leur grande bienveillance, qu'ils ont décidé de faire en fin de semaine, mon Olivier, c'est de te mettre en demeure. C'est ce que je comprends.
Absolument. Une belle mise en demeure de 4 pages qu'on a reçue, écoute, le 23 juin. En fait, il faut dire le 23 juin parce que nous, on a répondu cette fin de semaine. On attendait de sortir publiquement le temps qu'on puisse ajuster toutes nos choses, puis prendre le temps de répondre aussi à Santé Québec parce que c'est important de répondre. On a reçu une belle mise en demeure nous disant que pour ce qui est des médias sociaux, TikTok, le dossier de Jacques Teasdale, on met ça dans un un gros conteneur, on met un cadenas, on coule ça dans le fleuve, puis on n'en parle plus. C'est comme ça qu'on règle le dossier Jacques Tisdale.
Fait que ce qui est important, Pascal CV, pour Santé Québec, c'est pas de s'améliorer, c'est pas d'être empathique et bienveillant envers Olivier Tisdale, c'est de les mettre en demeure que personne parle.
T'as-tu l'impression que en tout est parti, c'est pour que tu arrêtes d'en parler, de peur qu'il y ait d'autres cas comme ceux-ci, ou parce qu'ils disent « là, ça va trop loin, on n'a pas voulu ça ».
Bien, il faut le voir. Moi, je pense que je le vois dans deux optiques. Ce qu'on nous reproche, c'est que là, l'entièreté des employés du CHU aurait une démotivation générale à rentrer travailler parce que Olivier Tisdale publie depuis 2 ans. Vous me permettrez d'en douter. Je pense avoir le dos large, mais pas au point de dire que je démotive l'ensemble des employés du CHU de Québec. Je peux comprendre l'unité où mon père était hospitalisé, d'avoir certaines difficultés à rentrer travailler parce que on a beaucoup de commentaires sur cet étage-là, malheureusement, puis ça semble être systémique. Donc, il faut que ça se règle. Puis je pense que Santé Québec veut éteindre cette partie-là du problème et aussi faire en sorte, comme vous venez de le dire, qu'il n'y ait pas trop de monde comme moi qui vienne dénoncer sur la place publique. Je pense que quand tu dénonces sur la place publique, comme on le fait là, que ce soit au niveau politique ou au niveau de la justice, ça prend quand même du courage pour le faire. Parce que s'attaquer à Santé Québec, c'est une grosse chaloupe, c'est un gros bateau. Puis ils se disent, ben nous autres, on est pas mal plus gros que lui, on va le fermer, on y envoie une mise en demeure de 4 pages, on y parle d'injonction, puis on va faire les procédures judiciaires contre toi. Mais moi, je suis pas comme ça. Moi, j'ai les mêmes gènes que mon père.
Tu parles de courage, justement. Combien de témoignages, à peu près, tu as reçu de gens qui disent, hey, moi, ça, de mes proches, les soins ont pas été adéquats?
Écoute, c'est des centaines.
C'est
de
ça. Hein?
Mais faut. Puis tu ouvres une porte incroyable à dire, on a des centaines de témoignages de gens qui ont vécu de la maltraitance ou des mauvais soins ou des oublis carrément. Mais au même titre qu'on a des centaines de témoignages de gens du système de santé qui nous disent « Monsieur Tisdale, continuez même s'ils veulent vous fermer, parce que c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai que ça se passe, mais nous, si on le dit, un peu comme Stéphanie Robert qui a été suspendue,
ben oui,
nous, on va perdre notre job. » J'ai une dame qui m'écrivait hier après 31 ans de travail dans l'entité d'hôpital du CHU de Québec. Elle a dénoncé une situation, elle a perdu son emploi. Après 31 ans, un dossier sans tâche. Perd son travail parce qu'elle a dénoncé.
Parce qu'elle
situation.
A dénoncé.
Elle a osé envoyer des lettres aux médias expliquant des mauvais traitements dans un hôpital au Québec. Puis on l'a congédié. Alors, parlez-moi pas d'hôpitaux, qui veulent dire on va faire des campagnes contre la maltraitance. C'est pas ça qu'on perçoit actuellement. Surtout quand on reçoit une mise en demeure, où est-ce que ça nous dit, là, vous vous fermez, vous arrêtez de parler du dossier de votre père.
Ouais. Pourquoi t'en parles encore dans les médias aujourd'hui, si tu as reçu cette mise en demeure-là?
Ben, c'est important pour une chose. Il faut que Santé Québec comprenne une chose, qu'il n'y a pas place à éteindre la voix des gens qui viennent dénoncer la maltraitance, les oublis de suivi. Parce qu'il faut se rappeler que l'oubli de suivi est une forme de maltraitance aussi. Hein? Mon père en a payé de sa vie de cet oubli de suivi-là. C'est pas une simple grippe qu'on a oublié de lui donner. On a oublié de le soigner puis il en est décédé. Donc, je pense que c'est important de démontrer à Santé Québec puis de faire un rapport de force en disant « Maintenant, c'est assez. Vous arrêtez de faire peur au monde. » Puis les gens qui ont le goût de se battre, qui ont le goût de critiquer parce que c'est une entité publique. Je vous rappelle qu'on le paye sur nos impôts. C'est une entité publique.
Oui.
Puis quand tu le fais bien, je pense que tu peux te permettre de critiquer. Au même titre que moi, comme entrepreneur, je vais recevoir le fameux avis Google. Puis si j'ai une critique, bien, je vais vivre avec la critique. Mais savez-vous ce que je vais faire? Je vais m'asseoir avec la critique, puis je vais trouver une solution pour améliorer cette critique.
J'aime tellement le comparatif que tu viens de faire, parce que toi, en tant qu'entité privée, tu peux pas perdre de l'argent. Si tu perds de l'argent, tu fais faillite, ton garage ferme. Fait que quand tu as un mauvais commentaire, tu t'assois avec ta gang, puis tu dis « Hey, comment qu'on peut faire mieux pour qu'on ait des bons commentaires la prochaine fois? » Puis ça, on le sent pas présentement dans le réseau de la santé. Regarde, on a un texto qui vient de rentrer. Je veux pas qu'il arrête sa quête, mais je suis certaine qu'il n'y aura jamais de réponse. Je travaille dans le réseau, je sais c'est quoi. T'es, même les gens, tu le dis bien, là, tu viens de le dire, puis on a un texto qui rentre. Une personne travaille dans le réseau qui ne dénoncera pas parce qu'elle a peur pour ses fesses.
Il y a une forme d'omerta dans le système de santé qui est générée, puis là, on peut le voir maintenant par Santé Québec. Santé Québec prend de la place. Il y a une publication dans le Journal de Québec aujourd'hui. Santé Québec répond. Les propos sont diffamants. J'essaie de voir à quel endroit je peux diffamer en faisant une critique constructive sur ce qui est arrivé à un être humain. On se rappellera que mon père, c'est un être humain. C'est pas un chien et un chat qu'on laisse sur le bord de la rue. Il a été maltraité à l'hôpital. Vous avez vu les photos. On voit les notes médicales aussi. On les lit, les notes médicales. On sait lire. On n'est pas des innocents. On sait lire. Quand on voit une stomothérapeute qui dit « J'ai retrouvé le patient baignant dans son urine », à quel point c'est bien traité quelqu'un quand la stomothérapeute dit « Écoutez, j'allume les lumières, là, mais le monsieur baigne dans son urine. » C'est pas parce que ça fait une heure qu'il est assis
là. Ça me crève. Là. Pour vrai, là, l'histoire de ton père, ça fait des années que j'essaie de me positionner, mais ça fait des années qu'on te parle. Puis je me dis, comment est-ce qu'on... On est dans l'acceptation, même au niveau des soins. Des fois, on voyait des choses, je me dis, on est-tu tellement pressé qu'on n'a pas le choix de laisser des patients comme ça? Y a-tu une chicane? Puis ça, ce serait inconcevable de toute manière. Tellement difficile à ramener les deux bouts qu'on est allé dans vengeance. C'est tellement intense.
C'est difficile de se positionner. Je pense que le fait qu'on soit sorti publiquement dans le dossier de mon père a une partie de réponse à votre question. Je pense que le système n'accepte pas aujourd'hui qu'on le critique. Au même titre qu'on disait tantôt, une entreprise qui est critiquée sur Google doit l'accepter. Je pense que les gens de la santé, puis disons-le, là, il y a des bons infirmiers, des bonnes infirmières. Puis j'ai été à l'hôpital dernièrement, j'ai été très bien reçu. C'est pas l'ensemble de l'œuvre, c'est quelques pommes pourries au travers de la ligne qui ont maltraité mon père. Et je pense qu'avec ça, s'il y a un sentiment de vengeance, mais il y a aussi l'aveuglement, je pense, de dire, il y a 74 ans, il y a le cancer des poumons stade 4, même si on fait quelque chose, on va le laisser là. Vous savez, la dernière nuit, quand mon père a demandé à ce qu'on soit là, c'était simple de prendre l'appareil téléphonique, un téléphone. « Hey, famille Teasdale, monsieur Teasdale, ça se dégrade actuellement. » On le voit dans les notes. D'heure en heure, la situation se dégrade. Pourquoi on n'a pas le droit d'être avec lui? On appelle ça le dernier voyage, le dernier départ, appelons-le comme on veut. Mm-hmm. Pourquoi on n'a pas eu le droit d'être avec lui à ce moment-là? Parce que je vous rappelle que les 16 jours, on a passé du temps à se battre juridiquement pour obtenir des bons soins. Pas à passer du temps de qualité avec quelqu'un qui va mourir ou qui va décéder. Il n'était pas à Michel Sarrazin. Il était en soins actifs. Il était là pour une mauvaise expérience en chimiothérapie, si on veut, un traitement pas chimio. Tu sais, il y a un ensemble de facteurs qui fait que peut-être un jour, on aura des réponses, mais je continue à penser que l'aspect public du dossier a nuit, probablement, mais l'aspect aveuglement aussi de dire, écoutez, c'est un vieux bonhomme, il va mourir, puis ça s'arrête là. Mais je pense que, rappelez-vous toujours une chose, que ce soit votre père ou mon père, les aînés sont passés avant nous. Ils ont bâti le Québec, ils nous ont tracé. Moi, mon père m'a éduqué.
La dignité. Exemple.
Ben oui, ton père t'a éduqué, ton père a même été conseiller municipal ici à Québec, donc en effet, t'as ta compagnie qui vient aussi avec ton père, donc en effet, c'était une personne tellement, tellement importante. Hey, je veux finir l'entrevue, Olivier, juste sur une note personnelle pour te remercier. Parce que, Pascal, imagine-toi donc que le Centre Auto Plus a décidé de faire une campagne de financement qui va commencer ce vendredi, qui va se terminer vendredi le 10 juillet 2027.
Wow.
Puis ça, c'est pour le Fonds philanthropique Catherine Guillet.
Wow!
Merci, mon chum.
Ça, on le fait parce qu'on te suit, nous autres aussi, Jeff, depuis un long bout de temps. Je peux dire une chose, je ne suis pas gêné de le dire à tous tes auditeurs, tu es un vrai.
Merci,
puis,
c'est gentil.
Ce que tu fais, tu le fais avec ton cœur, autant que, je te dirais peut-être, tous les grands combats qui se mettent dans le monde.
Ouais.
Moi, je t'ai vu à ton dernier événement, je t'ai vu au gala de lutte. La ténacité, la force que tu dégages fait que mon équipe au garage, on a dit « Hey, lui, on va l'aider, nous autres aussi.
Wow. »
On ne peut pas faire ce que tu fais exactement comme tu le fais, mais on va le faire pour toi puis te donner ça pour toi.
Ouais.
Ça va juste nous faire plaisir, nous autres, de dire « Hey, Jeff, regarde, on est là pour te donner un coup de pouce parce que tu le fais puis tu le fais d'une main de maître, mon homme. » Puis bravo à toi. Je pense qu'il faut que les gens te le disent. Un gros bravo à Jeff Fortin.
Merci.
Parce que t'es une machine.
Quand tu m'as écrit cette fin de semaine, j'ai resté très, très sous le choc, premièrement, très ému. Écoute, l'objectif d'Olivier, c'est 20 000 piastres. Fait que t'imagines?
C'est une grosse année.
C'est une très grosse année. Puis là, on a mis ça dans les soins pour les femmes défavorisées la dernière fois, le 30 000 qu'on a ramassé. Mais là, en collaboration avec Olivier, j'ai dit, on met ça dans l'itinérance. Fait qu'on vous revient avec un projet. On va vous revenir avec une soirée, parce que là...
Avec on, quoi, Jeff?
Une soirée, le Fonds philanthropique
ça,
Catherine
ça
Guillet.
Ça sent déjà la bière, on dirait, de la
exactement.
Manière
que tu le dis. Le Fonds philanthropique Catherine Guillet fait jamais les choses à moitié, tu le sais. On a eu Big Muff à la scène. On va aller encore plus gros cette fois-là. Plus gros que la scène de Bourneuf.
Puis on va être là pour vous aider.
Ouais, on va avoir ben du fun. On a justement le chum Éric Boulay qui vient d'écrire parce que j'ai dit « Hey, regarde ton téléphone pas loin, je t'appelle après l'émission. » Il est en train d'écouter, fait que d'après moi, il a hâte à mon appel d'après l'émission.
T'en as un autre dégourdi. Ça.
Ouais, Olivier, continue ton combat.
Merci.
On est là pour toi. Oui. Reviens nous voir quand t'as le rapport du coroner.
Absolument.
Ou s'il y a d'autres choses qui
parler.
Bougent. C'est sûr qu'on fait bouger les affaires avec toi. Ça n'a pas de sens.
Il y a des gens qui y croient pas, par exemple, en texto, des gens du réseau de la santé. Là.
Non, mais ça n'a pas de sens avec le gouvernement que les lanceurs d'alerte, ça soit ceux qui perdent leur job ou qui sont mis au ban des punitions quand ils lancent l'alerte sur quelqu'un qui ne fait pas sa job.
Mais s'ils sont rendus lanceurs d'alerte, c'est que je me demande combien de fois ils essaient de parler à l'interne avant de prendre l'autre.
C'est sûr!
Mais si vous savez,
il y a des couches d'organigramme dans ce réseau de la santé-là. Pas certain que ça se rend toujours à bonne couche.
Je peux vous dire en terminant que nous, on doit rien à Santé Québec. Fait qu'ils peuvent pas nous suspendre puis nous enlever notre salaire. Fait que tant qu'il va y avoir du sang qui rentre dans la pompe puis de l'air qui passe dans les poumons, on va être debout puis on va se battre jusqu'à la fin de ça.
Let's go, on est avec toi, mon chum.
Merci.
Yes! Hey, bonne continuité d'entrevue. Je sais que t'es en tournée médiatique aujourd'hui. Tournée médiatique très bien méritée.
Merci beaucoup.
Des petits commentaires, Jeff, oui. En rafale, parce que je le trouve pertinent, celui qui vient d'entrer. T'es tellement pas seul là-dedans. J'ai travaillé dans le milieu et j'ai pas assez de mains pour compter sur mes doigts le nombre de fois où ça arrive. J'ai quitté pour avoir trop dénoncé. J'ai une étiquette rouge sur mon nom. Si je voulais postuler à nouveau, ils ne me réengageront jamais. C'est vraiment trop triste. Quelqu'un d'autre qui dit « Les hauts dirigeants en santé devraient tous faire préposer deux semaines par année. Le staff est brûlé. Ratio de patients, super terrible. » Quelqu'un d'autre qui dit « L'omerta est la devise du gouvernement. La DPJ, c'est la même chose. On perd des jobs quand ils parlent justement de tout ça. » Donc, c'est un gros système difficile à changer pour cette raison.
C'est fou dans la tête. Avant de passer à la pause, on va faire de la circulation. Et après la pause, c'est Alex Laramé qui s'amène. Hey, on va parler de ce coup de fil de Donald Trump au président de la FIFA.
Oui, sur l'autoroute, ça va pas super bien. Entre autres, dans le secteur de Robert Bourassa-Nord, hauteur boulevard Wilfrid Hamel, la voie de gauche qui est partiellement entravée, il y a une panne. Sinon, sur Félix Leclerc-Ouest, l'accès depuis la première avenue, c'est partiellement entravé. Il y a également une panne. Je sais pas si le beau temps fait en sorte que les véhicules ne suivent pas la route, mais peut-être un petit peu d'essence, si jamais c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Des fois, on fait des longues routes, puis on se perd dans notre tête, puis à un moment donné, on fait « whoop ».
C'est ça. Alex Laramé, au retour de la pause, on parle de Donald Trump qui a appelé le président de la FIFA de cette offre hostile à Leo Carlson, une offre historique dans la Ligue nationale de hockey. Donc, restez avec nous. Alex Laramé qui va s'en venir à Québec la semaine prochaine. En plus, on va jaser de tout ça avec lui. Y a-tu hâte d'être dans notre belle vieille capitale?
Hey, la dernière fois qu'on lui a parlé,
il était excité. Montréal.
La dernière fois qu'on lui a parlé, il était très excité de ça.
Yes! On vous revient immédiatement. On en jase.
Jusqu'à 14.
Transforme.
Marie-Lou, c'est l'événement L'avenir commence maintenant de Hyundai. C'est quoi le plan de match?
OK, on offre l'Elantra Essential 2026 en location pour seulement 76 $ par semaine avec un boni de 500 $ et 0 $ d'acompte.
Ça, c'est du jeu offensif.
Et nos clients peuvent profiter des taux parmi les plus bas de l'année sur modèles sélectionnés. En plus, l'Elantra est couverte par la meilleure garantie sur véhicule neuf de sa catégorie.
Imbattable! Bon, tout le monde connaît le plan de match. On fonce chez Hyundai!
Location de 60 mois au taux de 4,99%. Des conditions s'appliquent. Visitez Hyundai Canada pour les détails.
Du 9 au 12 juillet de 10h à 17h, c'est la grande vente d'entrepôt à Québec. Retrouvez la galerie du meuble à Courcelette et Jardin de Ville sur Charest avec jusqu'à 70% de rabais sur le mobilier intérieur et extérieur.
Vous cherchez un emploi stimulant avec de bonnes conditions? Découvrez la toute nouvelle succursale de Signalétique au 750 Chemin Olivier à Saint-Nicolas, local 105, le 8 juillet de 13 à 18h. Venez nous visiter lors de la journée porte ouverte. Entrevue garantie sur place. Signalétique recrute des signaleurs routiers et des installateurs de chantier. Formation payée, salaire compétitif, prime avantageuse et poste à temps plein ou temps partiel. Permis de conduire valide requis, envoyez votre CV à cv@commercialsignalétique.ca ou au carrière.fm.
Max, t'as-tu appelé Desjardins?
Non, c'est ça, c'est que t'as pas besoin d'appeler grâce à l'application Service mobile Desjardins. Mmh. Quand ta carte de débit ou de crédit manque à l'appel, t'es capable d'en recommander une rapido.
On dirait que tu dis beaucoup app.
À part de ça, mettons que ton papa te rappelle de payer ta part de l'apéro.
Franchement.
Non, mais fais un virement. Avec l'appli mobile, tu peux faire la plupart de tes opérations courantes. Oh, excuse-moi. App.
Ben non.
App.
Vraiment.
Appichou.
On en jase à Boulevard 102.1. Le midi, on en jase.
Le midi, j'ai le temps.
À Boulevard 102.1. 100% parlé tout l'été.
13h50, c'est le trio de filles. Par la suite, dans le retour, Audrey Pinchot, Antonine Iaccarini, Véronique Bergeron. Mais on parlait de char avec Sam Tremblay-Michaud. Il y a des femmes qui parlent de char.
Ah, mon bonhomme.
Que c'est qu'on est là à Boulevard. Ça marche pas hein, quand je veux faire mon macho, Colin.
Non, c'est pas très crédible.
Ouais, Paul Lévesque va être là justement sur les chiots qui nous affectent dans une société déjà impatiente.
T'es dans tout, mon Dieu.
15h30, manquez pas ça. Puis il va y avoir un dossier allergie, texte du devoir sur le Benadryl. Benadryl qui devra être distribué par des pharmaciens. Hey, écoute, j'ai déjà fait, moi, une surdose de Benadryl.
Comment ça se passe?
J'en avais pris deux. Je m'en souvenais plus. J'en ai repris deux, genre 45 minutes après.
Oh.
Fucké ben raide.
Oh.
Étourdi, je tremblais. Il n'y a plus rien qui marchait.
Oh.
Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est bon. Là, que
quatre les... Benadryl.
Ouais,
c'est... Failli tuer un homme.
C'est ça. Fait qu'imagine. Un homme comme moi, en plus.
Non, mais c'est déstabilisant, là. Il y a même des remessinus, là. Puis je me rappelle pas c'est quoi. Le sirop, là. En tout cas, moi, à un moment donné, je me tapais du sirop parce que j'étais malade le matin. Puis là... j'étais avec Reg dans le temps. Puis à un moment donné, j'ai fait comme, hey, non, faut que ça... Là, je vais pas bien. On dirait que je suis complètement droguée. Puis la posologie est super importante.
Ben oui.
Donc, Benadryl qui donne du
Seigneur. Pas d'allure. Puis pourtant, t'es comme j'ai dit... Je suis un homme, un mâle alpha. OK, c'est beau, faut que Marceau sorte de ce corps. On va aller rejoindre un autre homme, un gars de sport. Alex Laramé, comment vas-tu?
Yes, ça va bien. Il fait beau à Montréal, on aime ça.
Excellent, il fait très beau à Québec aussi. As-tu hâte de venir passer ton été à Québec, mon ami?
Ben certain, j'ai très hâte d'aller en studio là, avec vous autres. Là. Ça part lundi prochain, j'ai bien hâte d'assez.
Parfait. J'ai très, très, très hâte de te voir également. Quoique pendant les 4 semaines que tu seras à Québec, il y en a 3, je suis en vacances. Mais il y en a une.
T'as le droit à des vacances.
Mais il y en a une qu'on va travailler ensemble. Moi, toi et Pascal, on va être le trio du matin la semaine du 3 août. Ah! Là, je suis certain qu'il y a plein d'auditeurs qui ont le goût d'écrire Pascal au 418-971-101 pour dire « Ça va être mes plus beaux matins. » OK, c'est beau.
Ça t'attire la sympathie.
Ouais, c'est ça. Vous comprenez que là, je fais beaucoup de sarcasme en essayant de me vendre moi-même parce que je joue le rôle de Donald Trump. Et notre ami Donald, Alex, a appelé le président de la FIFA pour dire « Voyons, c'était pas un carton rouge. » Et là, la FIFA qui revient sur sa décision, ça fait pit-pit en tabarouette, hein?
Ben, tu sais, le problème, c'est que la FIFA, c'est une organisation qui a été sous la loupe pour plusieurs scandales de corruption à travers les années. Là, on semblait être sorti de ça, puis là, il arrive la situation avec l'attaquant américain qui reçoit un carton rouge. Je pense que tous les amateurs de soccer sont d'accord sur le fait que ça ne méritait pas un carton rouge sur la séquence, mais il a été donné, puis c'est noir sur blanc dans les règlements. Lorsque tu as un carton rouge, le match suivant, tu es suspendu. Et là, c'est exactement ça qu'on apprend, que Donald Trump aurait appelé la FIFA et qu'on a décidé de suspendre la suspension d'un match. On peut faire ça sur une période d'un an. Donc, Balogun va pouvoir jouer le match de ce soir. Et là, ça pose plusieurs questions. Évidemment, on connaît le contexte des États-Unis. Donald Trump, c'est un des pays hôtes. Et tout le monde de la planète soccer a décrié cette décision. Là, on vient d'apprendre que la Belgique avait fait appel à ça. Finalement, on a décidé de rejeter l'appel. Donc, il va jouer ce soir. Décision sans précédent du côté de la FIFA.
Oui, exactement. Ce soir, Belgique, États-Unis à 20h. C'est sûr que je manque pas ce match-là. Je vais surveiller aussi le comportement dans les estrades parce que, tu sais, le football en Europe, c'est le sport national. Et là, les habitants de la Belgique, de se faire flouer comme ça, et ils l'accepteront pas si les Américains gagnent le match, là.
Ben, c'est sûr qu'il risque d'avoir des petits chiens pour narguer un peu l'équipe américaine, mais ça reste que les Américains sont à domicile. Donc, la majorité de la foule va être pro-américaine. Puis, tous les commentateurs américains ils ont essayé de défendre la décision d'une manière ou d'une autre, mais c'est totalement inexcusable. C'est jamais arrivé. Quand tu as un carton rouge, tu rates le match suivant.
C'est ça. On
est rendu là maintenant.
Ouais, on passe à deux petites nouvelles de hockey. Alex, la première, Leo Carlson des Ducks d'Anaheim qui reçoit une offre hostile des Flyers de Philadelphie. 5 ans, Pascal, 18 millions de dollars par année. Ça ferait de lui le joueur le mieux payé de la Ligue nationale. Les Ducks qui sont dans un beau processus de reconstruction. Ils ont fait les séries, ils ont touché à la deuxième ronde. Ils vont faire quoi? Parce que s'ils acceptent ce contrat-là, les Ducks, Alex, il aurait juste 9 millions pour le plafond salarial, et il y a encore Carter Gauthier à signer.
Ouais, les Ducks sont vraiment peinturés dans le coin là, avec cette offre hostile. Leo Carlson, qui va être le joueur le mieux payé de la Ligue, là, peu importe s'il s'en va avec les Flyers ou les Ducks, il va gagner 18 millions l'année prochaine.
Je l'adore, 21 ans, 67 points, 70 matchs, et 11 points, 12 matchs de série, mais là, être le mieux payé de la Ligue, on s'entend?
Ben oui. Je comprends les Flyers, là, je veux dire, c'est un super beau talent d'essayer d'aller chercher. Si tu fais une offre style, c'est ce genre d'offre-là que tu dois faire. Tu dois faire quelque chose de complètement démesuré. Mais moi, je suis les Ducks. Honnêtement, tu n'as comme pas le choix d'égaler l'offre parce qu'on a échangé McTavish. Donc là, on a un trou au centre. C'est vraiment notre centre numéro un, donc on ne peut pas se permettre de le perdre. Mais évidemment, l'échelle salariale pour eux, c'est complètement détruit. Puis là, en plus, on a Cotter Gauthier à signer. Il vient de marquer 40 buts. Fait que lui aussi, il regarde ça, puis il va dire hey, « mais moi aussi, je vais être payé ». Donc honnêtement, c'est catastrophique pour les Ducks.
Ah, vraiment, c'est un coup de tête et un pied de nez des Flyers qui va faire du mal. Pas seulement aux Ducks, ça va faire du mal au reste de la Ligue nationale aussi, parce que là, les comparables vont devenir complètement démesurés. Alex Laramie, on se reparle cette semaine?
Yes, toujours un plaisir.
Cool. Salut, Alex. Merci beaucoup. Alex Laramie, chroniqueur sportif pour nous à l'émission On en jase. Il va être avec nous à compter de cet été, à compter de la semaine prochaine à Boulevard 102, ici même à Québec, dans l'émission du matin. Donc, avec Pascal pour 4 semaines. Puis Pascal, ben vous allez rotationner les animateurs. Yannick oui. Marceau, 1 semaine. Nathan Meyer, 2 semaines. Puis moi, 1 semaine.
Exact. La chaise musicale de l'animateur.
C'est ça. Et toi et Alex, vous allez être bien en selle. Pascal Sévin, merci beaucoup pour cette émission.
C'était un plaisir. À demain.
Yes, on se parle demain. Le retour qui suit avec Antonin Iaccarini, Audrey Pinchot et Véro Bergeron. À demain, guys.